Et l'actualité de ce vendredi soir, c'est bien sûr l'escalade verbale entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Jair Bolsonaro. Le président français accuse le Brésilien d'avoir menti sur le climat. Il annonce que dans ces conditions, la France s'opposerait au traité de libre-échange controversé du Mercosur. On va en reparler dans un instant avec Jean-Rémy Baudeau. Et puis à 18h32, je recevrai Hervé Théry qui est spécialiste du Brésil. Que pensez-vous de cette crise internationale? Dites-le nous tout de suite au 39-21. Le G7 qui s'ouvre demain à Biarritz, Emmanuel Macron, lui, sera sur place dès ce soir. Le G7 qui devrait travailler à des initiatives concrètes. C'est ce qu'a dit Paris. Initiatives concrètes, bien sûr, sur la situation, au Brésil. Biarritz, où 13 200 gendarmes et policiers sont sur place. Plusieurs zones de sécurité ont été créées. Les touristes du mois d'août ont été priés de tenir à l'écart. On ira sur place rejoindre Pierre Herbulot. Biarritz est une ville fantôme ce soir. La facture des dégradations de radars automatiques depuis le début du mouvement des Gilets jaunes mi-novembre est estimée à, tenez-vous bien, 360 millions d'euros. Et les nouveaux radars tourelles censés éviter ces dégradations sont déjà vandalisés. Je passerai un coup de fil à Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière. Ces nouveaux radars déjà vandalisés, dites-nous ce que vous en pensez. On vous attend bien sûr au 39-21. Et puis autre sujet ce soir, et si l'alcool faisait son retour dans les stades, c'est à l'initiative de quelques députés. Le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, n'avait jamais réagi. Le service des sports d'Europe 1 l'a rencontré. On en parlera à 18h20. Et là encore avec vous au 39-21.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
En marge donc du G7 qui s'ouvre demain, on va revenir sur cette crise internationale hallucinante. Les feux de forêt qui se propagent en Amazonie sont ce soir devenus un sujet diplomatique majeur avec des répercussions internationales. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes en direct avec nous depuis Biarritz. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
On va revenir avec vous sur le déroulé, j'ai envie de dire sur cette escalade verbale entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Jair Bolsonaro.
Oui Thierry, vous avez raison de souligner cette escalade verbale, car c'est tout de même pas si fréquent dans le monde plutôt policé en général de la diplomatie. On est à couteau tiré ce soir avec le Brésil. Il y a d'abord eu hier soir ce tweet d'Emmanuel Macron qui, face à l'attitude du président brésilien sur les incendies en Amazonie, parlait d'une crise internationale appelant ses homologues du G7 à l'action. Réponse dans la foulée de Bolsonaro qui accuse Macron d'avoir, je cite, « une mentalité colonialiste ». Et là, ça ne s'arrête pas. Le président français a rétorqué ce matin que le président brésilien avait menti quand il s'était engagé au G20 d'Osaka à préserver l'environnement et la forêt amazonienne. Et pour signifier que les mots ne sont pas que des mots, eh bien le président français affirme désormais qu'il s'oppose au très controversé traité de libre-échange du Mercosur. Une proche d'Emmanuel Macron me confiait « On est à un moment crucial et Bolsonaro est dans le déni du dérèglement climatique. Il faut donc agir. »
Jean-Rémy, la France dit ce soir vouloir travailler à des initiatives concrètes lors de ce G7. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, soyons francs, pour l'heure, rien de concret dans les tuyaux. En fait, on est dans la phase d'élaboration de la réponse. Ça va se jouer dans les prochaines heures entre les Sherpas. Vous savez, ce sont ces négociateurs des pays du G7 qui sont déjà arrivés ici à Biarritz. L'Élysée promet que le sujet est désormais, je cite, en haut de la pile, qu'il sera abordé dès le premier dîner informel des chefs d'État demain soir. En fait, on pourrait se diriger vers des réponses peut-être immédiates pour lutter contre le feu et aussi du plus long terme pour préserver cette forêt qu'on présente souvent comme le poumon de l'humanité.
Est-ce que derrière les propos d'Emmanuel Macron, il y a clairement un message adressé au président américain qui sera demain à Biarritz et qui est sorti, on s'en souvient, de l'accord de Paris ?
Oui, évidemment Thierry. Vous savez, Emmanuel Macron, il se plaît à jouer le bras de fer entre les populistes et les libéraux. Mais c'est aussi ce bras de fer permanent depuis plus de 2 ans sur le climat entre Paris et Washington, depuis le Make Our Planet Great Again. Vous savez, en France, le président Macron est souvent brocardé par l'opposition pour son manque supposé d'ambition sur le climat. Mais à l'international, il jouit d'une solide réputation sur le sujet. Et oui, face à Donald Trump, il s'agit de choisir son camp. L'Américain avait tenté de rallier à lui le Brésilien lors du dernier G20. Finalement, Bolsonaro avait accepté de s'engager sur des actions pour l'environnement. Ce sont donc des mensonges, si l'on en croit l'Élysée, qui rappelle que la France s'est par ailleurs aussi opposée il y a quelques mois à des négociations commerciales avec les États-Unis à cause de la sortie de l'accord de Paris. Donc le message est clair de Paris, en tout cas, on ne négocie plus avec les pays qui s'assoient sur le climat.
Dernière question, Jean-Rémy. Finalement, ce Mercosur, c'était un peu un caillou dans la chaussure de Macron ?
Oui, un peu, effectivement. En France, ça fait des mois que l'opposition attaque le président Macron sur ce traité jugé néfaste pour l'environnement, pour la planète. D'une certaine manière, d'un pur point de vue politique, Emmanuel Macron, il coupe l'herbe sous le pied de ses opposants. Je peux vous dire que la Macronie exulte ce soir, diffuse largement l'annonce du président. On notera que même l'ancien ministre Nicolas Hulot a salué cette décision. Donc au-delà du bras de fer sur l'environnement et au-delà, évidemment, de la crise majeure que connaît l'Amazonie, tout ça a des répercussions politique chez nous, en France.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europa qui va suivre donc ce G7 à Biarritz. Ça vous fait réagir au 39-21. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Cyril, vous allez bien ?
Merci de nous avoir contacté. Votre ressenti sur cette escalade verbale entre les deux hommes ?
Comme je disais tout à l'heure à votre assistant, je pense que effectivement, Monsieur Macron n'aurait pas dû réagir seul, faire cavaler seul, parce que là, tout de suite, ça fait sorti du contexte, ça fait le monsieur qui veut tout gérer. Alors que justement, grâce au G7, je pense que si, avec tous les pays, ils mettaient le point où ça fait mal sur Monsieur Bolsonaro en disant c'est pas très bien, on est à l'unanimité pour dire qu'il faut agir, je pense que là, ça aurait eu plus de poids et ça aurait évité encore une fois des punchlines sorties du contexte.
Pour vous, Antoine, c'est de la gérance.
Ah oui, parce que c'est vrai que nous, on n'est que des Français. Et lui, c'est le président brésilien. Ça se passe sur son territoire. On n'avait pas tellement à sortir. Par contre, c'est vrai que dans le cadre du G7, ça aurait pu être dit. Et puis là, avec tous les autres membres, ça aurait pu avoir plus de poids.
Un mot sur la situation. C'est ces forêts qui partent en fumée. Vous réagissez comment ?
Alors, j'ai envie de dire, c'est encore une fois quand la maison brûle que tout le monde réagit, mais ouais. Ça fait des années que les forêts brûlent, que ce soit en France, que ce soit la dernière fois en Grèce, que ce soit la dernière fois en Italie ou encore je ne sais d'autres pays, au Canada où il y a aussi les forêts californiennes il y a quelques années. C'est encore une fois quand la maison brûle que tout le monde s'affole, alors que ça faisait déjà pas mal de signaux d'alerte, que encore une fois nos politiciens ont passé à la trappe, que ce soit ceux qui sont dans leur propre pays ou dans le nôtre. Je pense qu'il était déjà fait au moins une bonne dizaine d'années qu'il fallait prendre des mesures dans les têtes des derniers G7.
Merci à vous Antoine de Fécamp, merci de nous avoir appelé au 39-21, merci. Je rappelle que je recevrai à 18h32 Hervé Théry, il est géographe, il est professeur à l'université de Sao Paulo. On va tenter avec lui de bien comprendre ce qui se joue derrière ces propos, pourquoi l'Amazonie brûle.
Thierry, donc demain c'est le coup d'envoi du G7 à Biarritz jusqu'à lundi.
Bien sûr, avec des chefs d'État, les délégations, il y a sur place 13 200 policiers et gendarmes. La ville est quadrillée, il y a plusieurs zones de sécurité. Biarritz, ce soir, c'est une ville fantôme. Reportage, Pierre Herbulot.
On est en haute saison, mais la petite balade sur une place de l'hypercentre a des airs de mois de janvier pour ce couple de vacanciers toulousains habitués de Biarritz.
C'est comme en hiver. C'est la fréquentation. Même en hiver, peut-être il y a un peu plus de monde. Aujourd'hui, vraiment, c'est déserté.
C'est très agréable, tranquille.
Agréable, ce n'est pas le mot qu'emploient les patrons de café dans la zone rouge, la plus protégée. Leur terrasse reste désespérément vide. Chantal, une vendeuse de prêt-à-porter, a travaillé pour rien toute la matinée. C'est ce qu'elle raconte à sa voisine.
Personne.
Oui, et d'habitude, à cette heure-là, il y a un peu de...
Il y a du monde sur les tables, zéro en chiffre. Et on est là jusqu'à 19h.
Le maire a souhaité que les magasins restent ouverts, c'est
oui, ça. J'ai entendu dire que la mairie voulait justement éviter ce côté ville morte.
Ah ben oui, mais en même temps, elle est morte quand même.
Un vide qui n'étonne pas Nathalie. Elle a du mal à se sentir à l'aise au cœur de cet immense dispositif de sécurité.
Une ville complètement différente, une ville qui fait un petit peu peur avec des hommes armés un petit peu partout, des rues bloquées, des bâtiments militaires au large sur la mer. Des scènes de guerre un petit peu impressionnantes, on n'est pas habitué à ça et ça va être compliqué.
Et le centre-ville risque d'ailleurs d'être encore un peu plus terne demain. De très nombreux commerçants voulaient attendre de voir la fréquentation aujourd'hui pour savoir s'ils resteraient ouverts jusqu'à mardi. Ils ont été servis. Biarritz, Pierre Herbulot, Europe 1.
Alors c'est vrai que la question ce soir, c'est est-ce que Paris est sécurisé puisque gendarmes et policiers sont à Biarritz pour ce G7, la capitale qui a été bien sûr le théâtre de manifestations de gilets jaunes l'hiver et le printemps dernier. Écoutez le préfet de police de Paris, Didier Lallemand.
J'ai lu sur des réseaux qu'il n'y avait plus de forces policières à Paris. Donc je tiens à rassurer ceux qui penseraient que c'est le cas, les rassurer ou les inquiéter, je ne sais pas. Mais nous sommes 42 000 à la préfecture de police. Et même si j'ai, à la demande du ministre de l'Intérieur, envoyé des renforts à Biarritz, nous serons tout à fait présents pour la sécurité des Parisiens et des Parisiennes. Paris n'est pas une ville ouverte pendant le G7 et elle sera surveillée, accompagnée comme elle l'a été. S'il y a des rassemblements sur les Champs-Élysées, comme ça a été la tentation plusieurs fois dans le passé, bah, ces manifestations sont interdites sur les Champs-Élysées, elles le seront demain comme d'habitude. La meilleure façon d'avoir des manifestations pacifiques, c'est qu'elles soient déclarées et qu'elles soient accompagnées. Par contre, je mets en garde ceux qui voudraient se livrer à des manifestations non déclarées dans des lieux interdits. Bien évidemment, nous serons là pour les empêcher.
Voilà le préfet de police de Paris avec Guillaume Bier.
Europe 1. On va marquer une pause, Cyril Dagiral. Dans un instant, on va notamment parler des radars.
Oui, de ces radars tourelles tout neufs qui devaient résister. Bah, certains ont déjà été vandalisés. À tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h13. La suite de votre grand journal du soir, Cyril Dagiral, avec la rédaction d'Europe 1.
Et avec vous, bien sûr, au 39-21, parce qu'on va aborder un sujet sensible, un sujet qui vous fait réagir. Depuis le début de l'été, sont mis en place les nouveaux radars. Vous savez, les fameux radars tourelles. Pourquoi tourelles? Parce qu'ils sont à 4 mètres de hauteur, donc normalement plus difficiles à vandaliser. Mais voilà, ces radars sont déjà dégradés. Avec nous sur Europe 1 ce soir, Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors je le disais, les exemples se multiplient en Savoie, dans l'Aude, dans l'Eure. Pourtant, ils étaient censés être plus robustes, ces radars.
Bien écoutez, ça prouve simplement que ceux qui ont décidé cette stratégie, ce sont des bons commerciaux, parce qu'ils ont réussi à faire croire que ces radars étaient indestructibles, ce qui était une erreur fondamentale. Nous n'avons cessé de dire, dès le départ, que c'était une erreur de stratégie, qu'il fallait arrêter avec le remplacement des radars fixes par des fixes ou des tourelles. Mmh. C'est terminé, nous sommes passés à une autre époque maintenant. Les autres pays, les pays voisins, bien évidemment, ont quelques radars fixes encore, mais ils sont passés ils sont passés avec une nouvelle technologie que vous connaissez, ce sont les radars troisième génération qui
les
sont embarqués dans...
C'est ça.
Absolument. Ouais. Alors, continuer, persévérer dans l'erreur, c'est quand même très grave parce que ça nous coûte un argent fou,
bien
tout
sûr.
Simplement. C'est budgétivore. Cet argent-là pourrait être utilisé à bien d'autres choses, notamment ces voitures banalisées, en payant les réservistes des forces de l'ordre avec l'argent qui provient des radars qui fonctionnent encore. Mais il n'y a pas eu moyen de faire changer d'avis ceux qui sont les décideurs et qui sont en train de nous envoyer dans le mur. Preuve en est, il avait été, dit par les experts que le 80 km/h allait permettre de sauver entre 350 et 400 vies. Ouais. Nous n'avons pu avoir, c'est pas si mal malgré tout, que 206 vies qui ont été épargnées. Mais tout simplement parce que l'Observatoire national interministériel de sécurité routière a montré que environ 30 vies par mois n'étaient pas épargnées parce que les gens ne respectent pas les vitesses.
Madame Perrichon, restez juste avec nous. Je voudrais qu'on donne la parole à John qui nous a appelé au 39-21. Bonsoir John.
Bonsoir.
Vous nous appelez de la Marne. Votre réaction par rapport à ces radars saccagés?
Moi, ces radars saccagés, après de là les saccager, je trouve ça un peu limite. Après de là les recouvrir ou à mettre un petit peu de peinture sur les carreaux, je trouve pas ça bien méchant, mais au moins, moi, je suis pas pour. Hein. Je suis pas du tout pour les radars, même si je n'accepte pas que les gens roulent à des vitesses monstrueuses. Mais je ne suis pas du tout pour. J'effectue 120 000 km par an.
Ouais.
C'est vrai que je trouve ça vraiment vraiment désagréable d'être constamment arrivé sur le compteur, d'être toujours au qui-vive. Après, on n'aura pas le choix, effectivement, quand il y aura les radars 5e génération dans les voitures embarquées. Mais bon, pour l'instant, je ne dis pas que c'est normal qu'ils détruisent les radars. Mais par contre, après, ceux qui mettent des sacs poubelles ou qui vont mettre un peu de peinture sur les carreaux, je trouve ça... on va dire amusant.
Merci.
C'est un mot un peu fort.
Merci à vous, John, de nous avoir appelé au 39-21. Chantal Perrichon, il faut rappeler que la sanction, elle peut être très lourde. Hein.
Oui, mais vous savez très bien que ceux qui commettent ces sabotages sont presque toujours insolvables. Donc nous, la sanction est de 5 ans de prison, 100 000 euros d'amende, etc. Ce n'est pas appliqué. Alors nous, ce que nous allons demander maintenant,
oui,
c'est qu'au lieu de demander des sommes improbables, eh bien qu'on dise à ces personnes qu'ils, pendant 10 ans, ils paieront chaque mois 25 ou 50 euros pour effectivement montrer qu'il y a une sanction qui est juste. On demandera également, puisqu'ils ont un comportement asocial, absolument ignominieux, eh bien qu'ils aident pour un certain nombre d'actions. Vous savez qu'il y a des bénévoles qui actuellement, bah, finalement, nettoient les plages, les rivières, ramassent les millions de mégots qui sont répandus partout. Eh bien, chacun devra rapporter, lorsqu'il y aura des centaines d'heures de travail d'intérêt général, par exemple, des paquets de 25 kilos de mégots.
D'accord.
Il faut que ces gens soient réinsérés dans notre société. Mmh. Et quand John dit une chose qui est importante,
rapidement,
il dit « oui, ça l'embête les radars
oui. ».
Eh bien, moi, bien sûr, on est tous pareils, d'où la nécessité de suivre ce qui se passe en Europe actuellement, où ils sont en train de se battre pour qu'il y ait ce qu'on appelle le limiteur automatique de vitesse, qui à Bruxelles s'appelle ISA, Intelligent Speed Adaptation, ce qui veut, c'est une technologie dans la voiture qui empêche les voitures d'aller au-delà de la vitesse autorisée.
Merci.
Cette technologie,
merci.
Elle sera dans tous les véhicules autonomes.
C'est passé, votre message est parfaitement passé. Merci à vous Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. Grand merci à vous.
La politique à présent, Thierry Dagirel, avec la rentrée de la France insoumise.
Oui, ça s'appelle les amphis d'été de la France insoumise. C'est à Toulouse. Il n'a plus besoin de l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon, celui qui dit cela. C'est Adrien Quatennens, le coordinateur de la France insoumise. Bref, Adrien Beck, parler de l'après-Mélenchon, ce n'est plus un tabou. Hein.
Oui, au milieu des mots réorganisation, refondation, le nouveau coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, a utilisé un mot presque banni jusque-là, la transmission, processus, dit-il, mis en place depuis de longs mois au sein du mouvement.
Il y en a certains qui pensaient que ça ne résisterait pas à la personne de Jean-Luc Mélenchon, et bien il a fait la démonstration lui-même que si. Et aujourd'hui, dans ses amphis, vous le constatez vous-même. Vous êtes là, lui il est absent, vous n'y êtes pas habitué, nous non plus, mais néanmoins vous voyez que ça fonctionne. Et entendez qu'une transmission, ça ne veut pas dire disparition de Jean-Luc Mélenchon du paysage. Il est toujours là et il joue son rôle.
Nouvelle répartition des rôles et l'espoir d'une relance après le score très faible, 6% aux européennes. Sabrina, militante parisienne, y souscrit.
On est tous réunis autour d'un projet, d'un programme, l'avenir en commun. Il ne s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon. Il s'appelle l'avenir en commun.
Volonté aussi de dialogue affiché avec les Verts qui tiennent leur université d'été juste de l'autre côté de la Garonne. Des insoumis comme des Verts font d'ailleurs la navette entre les deux événements. Mais pour Marine, militante du Tarn, aucun rapprochement possible à ce stade.
Je pense qu'ils ne sont pas assez clairs globalement, que l'urgence climatique, l'urgence sociale, c'est la même chose. La rupture claire avec le capitalisme, elle n'est pas annoncée assez clairement en Europe Écologie Les Verts.
Illustration qu'une entente vert insoumis risque pour l'heure de se limiter aux sourires et poignées de main.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 à Toulouse donc.
18h-20h, Thierry Dagirel sur Europe 1.
Et à 18h20, les principaux titres de l'actualité avec vous Diane Chinouda.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Les feux en Amazonie provoquent une crise diplomatique entre la France et le Brésil. Emmanuel Macron accuse le président Bolsonaro d'avoir menti sur le climat. Face à la pression internationale, le Brésil pourrait envoyer son armée pour lutter contre les feux. Quant au G7, il va prendre des initiatives sur ces incendies. Un G7 qui s'ouvre demain à Biarritz dans une ville assiégée. Des policiers à tous les coins de rue et badges obligatoires pour entrer dans la ville. L'attaque de Donald Trump contre le patron de la Fed, la banque centrale américaine, le président américain se demande s'il est un pire ennemi que le président chinois Xi Jinping. Et puis la Balagne en Corse, frappée par de violents orages ce matin. De fortes pluies ont touché l'île Rousse. Il est tombé jusqu'à 40 cm d'eau dans les rues. 40 cm d'eau dans les rues, des caves et des commerces ont été inondés.
Merci Diane Chinouda.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de l'alcool dans les stades.
Ah, vous savez, c'est l'idée de quelques députés. Jamais ils n'avaient réagi à cette proposition. Le patron de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, s'est exprimé au micro du service des sports. C'est sur Europe 1 et c'est dans un instant.
Europe 1, il est 18h24. La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Et à la veille de la reprise du championnat de France féminin, le patron du football français prend la parole ce soir sur Europe 1. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Les sujets d'actualité ne manquent pas pour Noël Le Graët. Avant de déplorer les interdictions de plus en plus fréquentes de déplacement de supporters, le président de la FFF prend position sur la question de l'alcool dans les stades.
Oui, c'est un dossier brûlant depuis qu'un groupe de députés de la majorité a annoncé son intention de déposer une proposition de loi pour assouplir la loi Evin qui interdit purement et simplement l'alcool dans les stades, que ce soit sur les panneaux publicitaires ou à la buvette. Une loi qui date du début des années 90. Est-elle dépassée ? C'est l'avis de nombreux présidents de clubs qui déplorent un important manque à gagner. De son côté, le gouvernement souhaiterait le statu quo et même durcir la loi, la ministre de la Santé ayant récemment appris, mais oui, qu'on pouvait boire de l'alcool dans les loges alors que c'est interdit en tribune. De son côté, Noël Le Graët prône clairement l'assouplissement des textes législatifs. La France, a-t-il dit à Simon Rubin dans cette interview, est selon lui de plus en plus isolée dans ce domaine.
Mais on est le seul pays d'Europe. Vous savez, lorsqu'il y a une compétition européenne, en Allemagne, la France va jouer les brasseries entourent de pubs un certain nombre de stades. Je ne suis pas certain que les Allemands boivent plus que les Français sur les stades. Donc je crois qu'il faut assouplir, tout en faisant attention effectivement que le football ou le sport en général reste un vecteur de santé et de loisirs. Mais enfin, les positions rigides ne sont pas les bonnes. Donc il faut essayer effectivement d'être compréhensif sur le marketing, sur la pub, et peut-être être un peu plus ouvert.
Sur la consommation aussi un peu?
Un petit peu, je crois que ça ne changera pas grand-chose.
Alors Jean-François, l'autre dossier polémique de ces derniers mois, c'est la liberté de circulation de plus en plus restreinte pour les supporters en déplacement.
Oui, depuis des années, le phénomène s'aggrave en quelque sorte. Interdiction de déplacement dans certains stades, dans certaines villes, interdiction de porter des signes distinctifs de l'équipe adverse, match reporté. Alors ces mesures restrictives se justifiaient par les alertes terroristes. Puis il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le mot d'ordre était « Les forces de l'ordre ont d'autres choses plus importantes à faire que d'assurer la sécurité des matchs de foot ». Ce principe de précaution pouvait s'entendre, mais la pilule passe de plus en plus mal dans le monde du foot, chez les supporters, chez les dirigeants, chez les diffuseurs du championnat qui s'estiment lésés et désormais aussi chez Noël Le Graët qui regrette sur Europe 1 un acharnement inutile et espère un rendez-vous rapide avec le gouvernement à ce sujet.
Ça devient difficile, ça me gêne. L'interdiction de déplacement est stupide, mais ça vient de bagarres. Je crois d'une vingtaine, une trentaine de supporters par club. Bon, les interdictions de stade, bah, tout ça, il faut qu'on revienne, il faut qu'on discute avec le ministère de l'Intérieur, que nous-mêmes, on en parle beaucoup avec la Ligue, avec les clubs. Mais je trouve intolérable les fermetures de tribunes. Moi, j'aimerais bien que les supporters puissent se déplacer, qu'ils aient une place partout. On devrait pouvoir jouer au football moins protégés, avec des gens raisonnables.
Voilà, interview réalisée pour Europe 1 par Simon Rubin. Moralité aussi bien sur les reports de matchs que sur l'interdiction de déplacement des supporters, sur la publicité, la vente et la consommation d'alcool dans les stades. Noël Le Graët est en profond désaccord avec le gouvernement.
Jean-François Pérès, le patron des sports d'Europe 1, merci à vous.
À présent, on revient sur l'affaire Jeffrey Epstein.
Ouais, le financier américain retrouvé mort en prison il y a près de 2 semaines maintenant, alors qu'il attendait son procès, inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs et pour association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. Le parquet de Paris a ouvert cet après-midi une enquête pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Pourquoi cette enquête en France?
Eh bien parce que le parquet de Paris a pris le temps de vérifier et de recouper les éléments et surtout de prendre des premiers contacts avec les enquêteurs américains et qu'il y a des soupçons de faits en France ou impliquant des Français. Pour l'instant, il n'y a aucune plainte, un seul signalement officiellement transmis, même si une association affirme avoir été contactée par une dizaine de personnes victimes potentielles ou possibles témoins des faits. En attendant, ce qui est sûr, c'est que Jeffrey Epstein séjournait très régulièrement en France, notamment dans son appartement avenue Foch à Paris. On sait aussi que certaines plaignantes américaines dénoncent des abus sexuels et évoquent dans leurs témoignages le fait d'avoir été amenées en France. Enfin, il y a dans l'entourage proche du financier américain plusieurs personnes de nationalité française. Parmi elles, un nom revient, Jean-Luc Brunel, un patron d'agence de mannequins, aujourd'hui introuvable et qui est soupçonné d'avoir présenté, voire fourni, des jeunes femmes à Jeffrey Epstein. L'enquête ouverte est très large, vous l'avez dit, elle regroupe des faits de viol, d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans, mais aussi pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou des délits. Tout cela commis en France ou impliquant des victimes ou des auteurs français à l'étranger aussi, notamment aux États-Unis.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Dans un instant, on part à la plage. C'est bientôt la fin des vacances. À tout de suite.
Il est 18h30, c'est votre grand journal du soir. Et à présent, Thierry Dagiral, on va parler de la fin des vacances pour beaucoup d'entre nous.
C'est un gros week-end chargé sur les routes. Hein. C'est orange ce soir, notamment dans le sud et dans les Pays de la Loire. Demain, ce sera rouge sur toute la France. Soyez bien sûr prudents. Dernier moment de vacances, de soleil, de plage avant de remonter vers le nord. Vous êtes sur la plage des Catalans à Marseille, Yasmina Katou.
Oui, effectivement, la plage à deux pas du Vieux-Port est noire de monde. Sur le sable, difficile de trouver une petite place. Sous un soleil brûlant, Sophia se prélasse sur sa serviette. Maillot de bain orange et lunettes sur le nez, l'adolescente s'étale de la crème solaire avant le grand retour demain.
Je bronze. J'ai bien bronzé aujourd'hui, je suis contente. C'était l'objectif de cette semaine. Il y a du soleil, on profite des derniers instants avant la routine. L'eau, elle est super bonne. Franchement, je veux pas penser à demain. Là, je suis bien.
À côté d'elle, près du terrain de beach volley, Louisa, cette maman est venue avec sa fille, une dernière journée au bord de l'eau, avant de reprendre le travail dès lundi.
Je profite au maximum du dernier jour, depuis 11h du matin qu'on est là avec ma fille. On profite au max avant le retour au stress, oui, à la vie réelle.
Les deux Parisiennes se lèveront demain à l'aube, un retour en douceur puisqu'il fera 29 degrés demain après-midi à Paris.
Yasmina Katou à Marseille. Alors justement, la météo, Valérie Darmon, l'été revient par le sud.
Oui, beau temps absolument partout, à part quelques orages sur les Alpes-Maritimes et les Alpes du Sud demain après-midi. Sinon, des températures qui s'envolent, qui poursuivent leur envolée. Presque une vague de chaleur jusqu'en milieu de semaine prochaine, mais pas question de canicule. 26 annoncé à Boulogne-sur-Mer demain après-midi, 27 à Brest, 28 à Annecy, 29 à Bourg-en-Bresse, 30 degrés à Nice et Charleville, 31 à Rouen et Saint-Étienne, 32 à La Roche-sur-Yon, 33 à Carcassonne, 34 à Périgueux, 35 à Montluçon. Voilà pour les maximales. On est au-dessus des 30 degrés pour tout le monde quasiment.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1, il est 18h32 et le rappel des grands titres de ce vendredi avec vous Diane Chenouda.
Biarritz, ville morte à la veille du G7 qui s'ouvre demain pour 3 jours et des policiers sur les dents mais épuisés depuis des mois. Les syndicats de policiers organisent en ce moment même un barbecue de la colère dans le Pays Basque, dans un lieu tenu secret. Et Bayonne se barricade par crainte de manifestations violentes. Le G7 qui va prendre des initiatives sur les feux en Amazonie notamment. 360 millions d'euros, c'est le coût des dégradations de radars automatiques depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Près de 1000 radars ont été détruits, incendiés, tagués ou bâchés. Puis l'affaire Epstein rebondit en France. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle notamment sur mineurs.
Merci Diane Chenouda.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral. On va revenir sur l'escalade verbale entre Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro, alors que l'Amazonie est en feu depuis maintenant 2 mois.
Bonsoir Hervé Théry.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de Sao Paulo. L'Amazonie brûle sans discontinuer depuis le début du mois de juillet. Cette situation, elle est dramatique. Comment on a pu en arriver là ?
Elle brûle tous les ans, en fait, parce que c'est largement des brûlés qui sont volontaires, c'est pas des incendies accidentels, et qui servent à défricher, soit à attaquer la forêt encore intacte, soit à rebrûler les broussailles qui repoussent après. La différence, c'est que cette année, c'est beaucoup plus que les années précédentes.
Est-ce que le président brésilien Jair Bolsonaro est en partie responsable de ces feux ?
Il n'est pas craqué les allumettes lui-même, mais il a quand même largement encouragé et donné aux gens qui l'ont largement porté au pouvoir, d'ailleurs, le sentiment qu'ils pouvaient y aller et qu'ils auraient une toute totale impunité.
Les ONG pour l'environnement, est-ce qu'elles ont un poids ou finalement il n'y a que l'argent qui peut faire réagir le gouvernement brésilien ?
Non, elles ont un poids dans l'opinion. L'université de São Paulo où j'enseigne, mes étudiants sont très militants dans ce genre de choses et ils vont faire pression. Ils sont en même temps que les organisations internationales. Ils sont très loin de l'Amazonie et ils ont un peu les mêmes idées que nous, si vous voulez, sur l'Amazonie. Donc il y a quand même un vote qui se fera un jour ou l'autre et ça risque de quand même de peser.
Ce phénomène de feu, il est normal en cette période ? C'est une période de sécheresse ?
Oui, c'est au moment. Enfin, cette année n'est pas spécialement sèche, mais c'est le moment de l'année, juillet-août, où la sécheresse se produit en Amazonie. C'est à ce moment-là qu'on met le feu pour que ça brûle, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on défriche, on entasse la végétation, on attend qu'elle sèche et on met le feu, toujours en juillet-août.
Pourquoi on ne tente pas de maîtriser ces feux ?
Parce que c'est des feux volontaires. C'est-à-dire que les gens font ça pour défricher. Alors ça arrive que ça échappe au contrôle et que ça brûle un peu plus qu'on ne voudrait, mais dans l'ensemble, les gens le font volontairement.
Combien de temps faudra-t-il pour que la végétation puisse revenir ?
Alors ça, si on on lui fichait la paix, ce serait, on calcule, une trentaine, une quarantaine d'années, à condition que ce ne soit pas une trop grande clairière, qu'on puisse avoir des graines qui viennent des arbres qui sont autour. Mais en général, c'est sans retour, puisque aussitôt, on met de l'herbe ou des cultures. C'est fait pour transformer les forêts en terres cultivées.
Restez avec nous, Hervé Théry. Jade nous a appelé au 39-21. Est-ce que Jade, vous êtes avec nous?
Allô?
Oui, non, ce n'est pas Jade.
Non, ce n'est pas Jade.
François, bonsoir.
C'est François, mais ce n'est pas grave. Hein.
Vous nous appelez d'où, François?
Alors, moi, je vous appelle du Calvados, Orbec, exactement.
D'accord.
À côté de Lisieux.
On vous écoute.
Eh bien, oui, moi j'étais un petit peu surpris de cette histoire de feu en Amazonie, parce que je me suis dit, il a fallu que le G7 soit à Biarritz pour qu'on entende parler de l'Amazonie. Mmh. Et j'ai bien peur qu'on s'occupe encore d'une affaire qui va nous dépasser un petit peu, parce que ces feux en Amazonie, votre spécialiste tout à l'heure l'a dit, je l'écoutais à la radio, eh bien d'abord, c'est un peu la période des feux là-bas, mais il y a aussi le fait qu'il y a une déforestation qui a été programmée par le président Bolsonaro pour justement une meilleure productivité des viandes bovines. Mmh. Et tout ça, c'est par rapport aussi à un contrat commercial avec l'Union européenne qui s'appelle le Mercosur. Que M. Macron ne le veuille ou ne le veuille pas, c'est quand même un contrat qui est vu par l'Union européenne. Quant à savoir comment le G7 va pouvoir prendre des initiatives par rapport à ces feux vis-à-vis du Brésil, moi, je voudrais bien savoir quelle influence le G7 va avoir quand on sait que l'ONU peine des fois à se faire entendre. Et le G7, il est représentatif de quoi aujourd'hui? De pas grand-chose, parce qu'il ne représente même pas les pays les plus industrialisés.
Vous avez posé une question en partie à Hervé Théry. Hervé Théry?
Oui, alors le G7 a quand même au moins une fois eu de l'influence, puisque dans les années 90, il a mis l'argent sur la table, 250 millions de dollars, pour le programme de préservation des forêts tropicales. Et ce qu'il y a de législation environnementale au Brésil, c'est le G7 qui l'a payé. Donc au moins une fois, il a fait quelque chose.
François, cette réponse d'Hervé Théry vous convient ?
Oui, mais il a fait quelque chose en 1990, mais malheureusement, entre 1990 et 2019, il y a énormément d'années qui sont passées, et surtout des intérêts commerciaux qui dépassent largement le côté écologique, et même si on est pour l'écologie dans son ensemble.
Et Hervé Théry ?
Oui, je suis d'accord, mais juste une précision, on n'attaque pas, le contrat ne s'appelle pas le Mercosur. Le Mercosur, c'est le nom de l'Union des pays du Sud. Ce dont on parle, en fait, c'est le contrat entre l'Union européenne et le Mercosur. C'est juste pour compléter, manie de professeur, excusez-moi. Mais effectivement, la grande partie de du déboisement en Amazonie, c'est pour faire des prairies pour élever des bovins ou du soja ou des cultures de soja pour nourrir le bovin. Donc effectivement, une grande partie du déboisement de l'Amazonie, c'est pour produire de la viande de bœuf.
Merci à vous, François, de nous avoir appelé au 39-21. Hervé Théry, je rappelle que vous êtes spécialiste du Brésil et professeur à l'université de Sao Paulo. Cette escalade verbale entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro peut aller jusqu'où, là?
Dieu seul le sait, si je veux dire. Deus quiser.
Comment ça peut se terminer?
Parce que le genre, il se qualifie lui-même de Trump tropical, donc je suis bien incapable de prévoir jusqu'où peuvent aller l'un et l'autre. Mais là, traiter le Macron de colonialiste, c'est quand même assez gonflé. Ce qui est sûr, c'est que en ce moment, lui et les gens qui sont autour de lui rendent pour coup. Ils ont dit beaucoup de mal de la Norvège et de l'Allemagne qui avaient coupé les crédits en Amazonie, puisque à cause du déboisement. Et donc la technique, c'est on m'attaque, j'attaque.
Ouais. Mais
donc,
là,
il a trouvé ça. À mon avis, il vise la Guyane.
Ouais.
Quand il parle de présence colonialiste, oui, c'est parce que les gens autour de lui considèrent que la Guyane française est une colonie.
On n'est plus dans la diplomatie, là, quand on parle de mensonge, de trahison, les mots sont très crus, là. Hein.
Oui, c'est de l'escalade verbale, c'est une façon un peu de... J'ai failli dire un rideau de fumée, je pense que la comparaison serait mauvaise en ce moment.
Oui.
Mais c'est effectivement pour détourner l'attention. Mais les journaux brésiliens que j'ai lus toute la journée, là, sont unanimes contre lui.
Merci à vous, Hervé Théry. Vous êtes spécialiste du Brésil et professeur à l'université de Sao Paulo. Merci.
Europe 1. Et dans un instant, Thierry, vous revenez sur un moment marquant de l'actualité de ces derniers mois.
Et ce soir, le 1er décembre 2018, c'était l'acte 2 des Gilets jaunes. Ce soir-là, ça a tremblé à Matignon. On retourne en coulisses avec Mickaël Darmon dans un instant. À tout de suite.
Europe 1. Dans la foule des Gilets jaunes, il y a Thierry, un ouvrier. Il appelle les gens à manifester. Il parle d'une petite révolution.
He's not gonna do testing of rockets and nuclear.
Oh, le but de Manchester United.
Europe 1.
Rétro d'actu.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Thierry Dagiral.
Et on va parler des Gilets jaunes ce soir et de cette date précise. Le 1er décembre 2018, c'est l'acte 2 des Gilets jaunes. Plusieurs milliers de manifestants sur les Champs-Élysées s'opposent aux forces de l'ordre. Déclaration d'Emmanuel Macron.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé.
Bonsoir Mickaël Darmon.
Bonsoir.
Éditorialiste sur Europe 1, auteur de ce livre « La politique est un métier » aux éditions de l'Observatoire. C'est le jour où l'exécutif a tremblé, Mickaël. Hein.
Oui, c'est l'acte 2, mais en fait c'est le premier vrai jour. Et c'est le 1er décembre, ça restera vraiment comme une date où tout bascule dans la perception de l'appareil d'État. De cette révolte, de ce soulèvement de la petite classe moyenne qui vient donc bouleverser de l'État et ce qui se passe effectivement sur les Champs-Élysées est d'une telle violence que ça met tout l'appareil d'État dans un état de sidération.
Alors ce 1er décembre, vous racontez dans votre livre, tout Paris dit qu'Édouard Philippe doit quitter Matignon. Ce 1er décembre, Emmanuel Macron est lui au G20 en Argentine.
Oui, il est autour de la table avec donc ses homologues donc du monde entier. Il discute de tous les enjeux. Il y a aux côtés de lui Bruno Le Maire. Il y a donc Jacques Attali. Il y a également Jean-Yves Le Drian. Ils discutent de beaucoup de choses. Les trois de politique également de politique intérieure. Et puis pendant ce temps-là, eh bien les images à Paris commencent à arriver. Il y a un décalage horaire, mais ils commencent à comprendre ce qui se passe. Et c'est dans la nuit. Vraiment qu'il a perçu la gravité donc de la situation, donc il décide directement à sa descente d'avion de se rendre donc sur à l'Arc de Triomphe. Pendant la nuit, les services de la mairie ont nettoyé les insultes et les propos très crus contre Macron, même le couple Macron sûr qui avait été inscrit même sur l'Arc de Triomphe. Et là, il se rend sur place et là, il voit effectivement la gravité de la situation et on comprend que la démarche séditieuse, on va dire, hein, des Gilets jaunes et des troupes sur place ce matin-là et ce jour-là ont vraiment mis en difficulté l'appareil d'État.
Mickaël, trois semaines avant, pour la matinale d'Europe 1, on est à Verdun, vous et moi, pour l'interview d'Emmanuel Macron par Nikos Aliagas. On est au tout début des Gilets jaunes. Voilà ce que dit le président sur l'antenne d'Europe 1. Nous sommes le 6 novembre 2018.
Je suis toujours méfiant sur ces grands appels à mobilisation pour tout bloquer, parce que généralement on trouve derrière un peu tout et n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et des gens qui n'ont pas beaucoup de projets pour le pays, si ce n'est de le mettre à l'arrêt.
Mickaël Darmon, l'exécutif n'a pas vu arriver la chose, monter cette colère violente.
Oui, c'est ça le plus étonnant. On a au pouvoir depuis 2017 une équipe qui entoure Emmanuel Macron, qui est de gens super intelligents, super diplômés, super geeks, totalement versés dans l'intelligence artificielle et qui ne comprennent pas ce que le pays est en train de vivre à cause des politiques budgétaires, mais également à cause de toutes les mauvaises politiques publiques depuis 30 ans qui se sont accumulées et qui font que tout va exploser sur la révolte, sur une taxe. Et quand le peuple se s'empare de la révolte de la taxe, alors là, le pouvoir est mis à mal, les syndicats sont débordés et personne n'a effectivement rien vu. On le comprend à travers effectivement cet extrait et ces déclarations
d'Emmanuel Macron
au début des Gilets jaunes, à l'origine du mouvement. Ça commençait à peine, on était au début de la semaine d'itinérance dans le Nord et dans l'Est, mais on sentait effectivement que ça commençait à bouillonner, mais on voit bien, on comprend à quel point il y a une difficulté d'interprétation
exact.
De ce qui est en train de se passer, et c'est ensuite ce qui amènera Emmanuel Macron à décider de faire le grand débat, de se plonger dans le grand bain municipal pour récupérer une légitimité qui lui manquait.
Et là, c'est une révolte directe sans les syndicats, c'est-à-dire c'est vraiment le peuple en frontal face au pouvoir.
Oui, c'est ce que
c'est
ce qui est apparu à travers l'enquête aussi que j'ai menée, qui est un peu au fond là l'histoire secrète de l'acte 2, c'est-à-dire que paradoxalement les gilets jaunes et certains macronistes me le disent à ce moment-là, eh bien ils sont paradoxalement macroniens, c'est-à-dire qu'ils se sont saisis eux-mêmes également de ce pouvoir hors parti, hors syndicat, hors appareil, et Macron affronte au fond le quelque part le résultat de la reconstruction, en tout cas de la situation issue de l'élection présidentielle, des partis décomposés, vitrifiés sur le plan traditionnel, des syndicats incapables de pouvoir récupérer donc ce mouvement, en tout cas de pouvoir l'encadrer. Et c'est comme si, au fond, ils avaient écouté les propos de Macron à Washington devant les étudiants quand il avait dit aux jeunes « bousculez, ouais, changez les codes, soyez turbulents ». Ce ne sont pas les winners qui l'ont fait, mais ce sont ceux qui ont le sentiment d'être les losers de la mondialisation qui s'en sont emparés.
Et puis, il y a la violence des propos qui étonne, qui fait peur sans doute à l'exécutif. Si on arrive devant l'Élysée, on rentre dedans. Cette phrase, elle est signée Éric Drouet, l'un des Gilets jaunes, le 6 décembre 2018. Et elle agit comme un détonateur.
Oui, effectivement. Et c'est là où on comprend effectivement que ce précipité de cette classe moyenne qui, au fond, était pas assez pauvre pour avoir les minima sociaux, pas assez riche pour être bien reçu par les banquiers, c'est ce qui fait exploser. C'est le soulèvement. On a cherché beaucoup de noms pour qualifier ce qui s'est passé. Moi, je parle toujours d'un soulèvement de la petite classe moyenne parce que ça n'est pas uniquement les factions séditieuses ou les extrêmes qui ont pu infiltrer parfois, effectivement, et très souvent, les manifestations à Paris. Mais sur les ronds-points deviennent des bastions en France, deviennent des espèces de zag, j'appelle ça, les zones à gilets, où on se rassemble et on monte à ciel ouvert des états généraux et on désigne une tête, une cible, toujours Emmanuel Macron, voire sa femme. La violence contre l'exécutif et contre le président de la République est absolument inédite à ce moment-là.
Le lundi 10 décembre, à la télévision, Emmanuel Macron annonce 10 milliards en 12 minutes et ça ne calmera rien.
Ah oui, il fait voler la patrouille dépense, comme on dit, au-dessus des Français. Vous l'avez dit, 10 milliards en 12 minutes, c'est du jamais vu depuis bien longtemps, en tout cas. Par cet acte-là, Macron aussi finalement décide un petit peu d'entrer en politique. Il prend les techniques un peu classiques, mesures d'urgence, on laisse filer le déficit et on veut calmer d'abord l'incendie. Ça ne va rien calmer parce que, comme je vous le disais, en réalité, il y a une contestation démocratique. Il y a une volonté de cibler l'exécutif, il y a une volonté de dire on n'accepte plus ce système et la crise elle est profonde. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, Macron décidera de prendre son bâton de pèlerin démocratique cette fois-ci et d'aller devant les maires.
Il y a quelques jours, lors de la commémoration de la Libération, voilà ce que disait Emmanuel Macron.
Notre pays parfois se divise et nous avons vécu ces derniers mois des moments difficiles, de division, parfois de violence, dont il nous faut savoir sortir. Il y a parfois des bonnes raisons d'être en désaccord et il faut les respecter. Il y en a d'autres qu'on peut contester, il faut savoir toutefois les entendre. Mais il ne faut jamais oublier que quels que soient les désaccords, au grand moment de notre histoire, nous avons su nous réconcilier.
Michel Darmon, le premier conseil des ministres a eu lieu mercredi, il y a 2 jours. C'est encore dans toutes les têtes. Cette colère, elle peut reprendre ?
Oui, elle peut reprendre. D'abord parce que si l'on évoque ce qu'on vient d'entendre de la part d'Emmanuel Macron, notre pays parfois se divise. C'est un propos une idée qu'il a en tête et qui le poursuit depuis le début. Dans ses premiers vœux de président, à la fin de l'année 2017, il parlait déjà des divisions qui nous minent. Ensuite, il y a encore quelques jours, à la sortie du Conseil des ministres, il a dit à ses ministres, ne sous-estimez pas la colère qui reste sous-jacente, les braises restent encore importantes. C'est d'ailleurs l'inquiétude de l'exécutif dans cette rentrée. Est-ce que cela peut repartir d'une manière ou d'une autre ? Bien évidemment, on sent bien que la colère reste encore dans cette partie de la population qui attend de voir si un jour elle peut devenir première de cordée, alors que pour l'instant elle se sent souvent à la fin de la cordée.
Le jour où l'exécutif a tremblé, le 1er décembre 2018, je rappelle bien sûr votre livre, Michael Darmon. La politique est un métier aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, Michael.
Merci.
18h-20h,
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et à 18h51 sur Europe 1, le rappel des grands titres de ce vendredi avec vous, Diane Chénoudin.
Le G7 s'ouvre demain pour 3 jours à Biarritz, dans une ville assiégée. Les syndicats de policiers organisent un barbecue de la colère ce soir, dans le Pays Basque, dans un lieu tenu secret. Et Bayonne se barricade par crainte de manifestations violentes. Le G7 va prendre des initiatives sur les incendies en Amazonie. Emmanuel Macron accuse le président Bolsonaro d'avoir menti sur le climat. Face à la pression internationale, le Brésil pourrait envoyer son armée pour lutter contre les feux. L'attaque de Donald Trump contre le patron de la Fed, la banque centrale américaine, Le président américain se demande s'il est un pire ennemi que le président chinois. 360 millions d'euros, c'est le coût des dégradations de radars automatiques depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Près de 1000 radars détruits, incendiés, tagués ou bâchés. Et puis la Balagne en Corse, frappée par de violents orages tôt ce matin. De fortes pluies ont touché l'île Rousse, les eaux ont envahi la ville. Des caves et des commerces ont été inondés.
Merci Diane Chénouda. Dans un instant, je vous présente Clémence. Clémence, elle a changé de vie du jour au lendemain. Son témoignage très fort sur Europe 1.
Il est 18h53, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral.
Et avec vos expériences de vie, vous savez, tous les soirs de cet été, nous vous avons proposé le témoignage de quelqu'un qui a osé renouveler son quotidien. Dernier témoignage ce soir, celui de Clémence, Clémence Mathieu. Après 20 ans dans la communication à Paris, elle a choisi de s'installer à Bordeaux et de changer radicalement de vie. C'était il y a 6 ans et l'idée de son nouveau métier, Clémence l'a trouvé grâce à un reportage à la télé, un reportage sur des étudiants américains qui revendaient des livres d'occasion.
Fallait oser.
J'ai trouvé cette idée géniale et je me suis dit, on est dans un pays de livres, de lecteurs. Et forcément, il y a des gens en France qui ont la même question, qui se demandent quoi faire de leurs livres, pas seulement de leurs livres de cours, de leurs livres en général. Et donc, ça a commencé comme ça. Alors, mon quotidien, je vis au milieu des livres. J'en ai partout, des cartons autour de moi quand je vous parle. Parce qu'en fait, notre principe, c'est donc de collecter des livres chez les particuliers, les associations, les bibliothèques.
Ah, visiblement, un problème de son pour écouter ce témoignage de Clémence. Clémence qui a donc monté l'antenne de cette association Recycle-Livre à Bordeaux. Cette activité lui permet de toucher un petit salaire, mais ce qui est le plus important pour elle, c'est son rôle social.
En fait, les gens nous disent merci tous les jours. Il y a du travail qu'on fait qui nous apporte une satisfaction à soi. Mais là, c'est la satisfaction des autres, en fait. On travaille, mais les gens nous remercient. C'est assez rare dans son travail. Hier, on nous a apporté une bouteille de vin. Voilà, parce qu'on rend un réel service, mais un service qui a l'air idiot. Mais un vrai service, c'est sur un objet qui est très affectif, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi travailler des structures externes, des associations, des entreprises d'insertion, et on les aide, elles aussi, à créer des emplois.
Voilà, pour en savoir plus sur cette entreprise dans laquelle travaille Clémence Mathieu, rendez-vous sur Internet sur www.recyclelivre.com. Et voici la carte postale de Nicolas Cantelou. C'est maintenant sur Europe 1, et c'est bien sûr avec Julie.
Cette semaine sort un nouvel album posthume, celui d'Alain Bachung. Des bandes avec sa voix ont été retrouvées et une musicienne a réorchestré l'album pendant 5 mois, jour et nuit. Bonjour Laetitia Hallyday.
Oh, bonjour Julie Laffey.
Vous êtes en duplex de Los Angeles. Alors après celui de Johnny, celui de Bachung, on parle d'un album posthume d'Aznavour. Est-ce que ça vous choque cette mode-là des albums posthumes?
Est-ce que ça me choque? Mais pourquoi ce serait choquant? Si on retrouve des bandes, c'est dommage d'en priver les fans. Bah, oui, j'ai un petit scoop.
Quoi?
J'ai retrouvé des bandes de Johnny qui vont bientôt venir des chansons.
Ah bon? C'est pas vrai, dites-nous.
Si, c'est vrai. Vous l'écoutez, vous l'écoutez dans le studio?
Ah bah oui, bien sûr.
Un scoop. Laetitia, est-ce qu'il reste des patates? Parce que j'aurais bien mangé des frites.
Mais attendez, c'est pas une chanson ça.
Mais attends, oh, elle est impatiente cette Julie. C'est parce qu'on n'a pas encore mis la musique dessus, écoute un peu.
D'accord. Ah, alors.
Laetitia, est-ce qu'il reste des patates? Parce que j'aurais bien mangé des frites.
Ah, c'est beau, non?
Ah, c'est magnifique, ouais.
On va falloir l'acheter, je dis.
On va l'acheter, oui, oui.
Et encore, t'as pas entendu la piste 5 sur le disque?
Ah, c'est quoi alors?
Elle s'appelle Après le bip sonore. C'est une chanson sur l'absence d'un couple, mais qui cherche une solution pour se parler quand même.
Ah.
Écoutez ça, c'est bouleversant. Mm.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia et Johnny. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Et vous pouvez laisser un message après le bip.
Non mais attendez Laetitia, c'est pas une chanson ça, c'est le message du répondeur.
Je sais pas si c'est une bande que j'ai retrouvée dans une petite boîte avant d'enregistrer Johnny près du téléphone. Attends, mais j'en ai une autre qui est sublime. Ah. C'est l'histoire d'un homme seul qui veut faire du ménage dans sa vie.
Eh ben écoutez, on va l'écouter. Oula.
Oui, Laetitia, c'est Johnny. Je suis à Carrefour Market. Est-ce qu'on a encore du sopalin? Est-ce qu'on a encore du sopalin?
Ah oui, c'est beau. On dirait du Jean-Jacques Goldman.
Nicolas Canteloup de retour bien sûr dans quelques jours maintenant, en direct dans la matinale pour une nouvelle saison de Rire sur Europe 1.
À suivre dans quelques minutes Thierry.
Votre météo et le journal de 19h, on va revenir bien sûr sur cette crise diplomatique entre la France et le Brésil sur les feux d'Amazonie.
Il est 18h59, pratiquement 19h, c'est le grand journal du soir qui se poursuit sur Europe 1.
Et après le journal et la météo des plages à 19h10, notre invité ce soir, le sociologue Michel Fize, il publie « L'éducation nationale en faillite aux éditions de l'Archipel, un pavé dans la mare à quelques jours de la rentrée scolaire ». 19h20, il travaille d'arrache-pied pour vous informer dès lundi sur Europe 1 Nouvelle Grille. Il sera avec moi Mathieu Béliard, Philippe Vandel et Nathalie Lévy. Mais d'abord la météo, Valérie Darmon, c'est grand bleu demain.
Absolument, et de la région PACA à la Corse, le temps qui reste assez hésitant avec des orages moins nombreux qu'aujourd'hui, notamment sur les Alpes et la Côte d'Azur, se concentrant surtout sur les Alpes de Haute-Provence et en Corse. Dans le centre, Val-de-Loire, Hauts-de-France, Bretagne, région parisienne, l'impression reste très très estivale avec des températures qui s'envolent et très peu de vent. De la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, en passant par l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel est dégagé et la sensation de chaleur très forte, surtout entre la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Et du coup, je vous donne quelques valeurs en ce samedi après-midi. 35 annoncés à Montluçon, Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Toulouse et Bordeaux. 33 à Nantes, Orléans, Nevers et Clermont-Ferrand. 32 à Chartres, à Beauvais et à Alençon. 31 à Paris, Grenoble et Caen. 30 degrés à Nice, 29 à Besançon, 27 à Lorient.
Merci Valérie Darmon, vous revenez pour la météo des plages à 19h07 précisément.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h, passé de 1 minute. Et c'est l'heure du récap de l'actualité avec Thibault Lambert.
Bonsoir Johanna, bonsoir à tous. Biarritz, 25 000 habitants auxquels il faut désormais ajouter 5 000 personnes ce week-end pour le sommet du G7. Ça va des délégations étrangères aux journalistes accrédités, mais comptez aussi 13 200 policiers et gendarmes mobilisés, dispositif hors normes. Un nouvel effort demandé aux forces de l'ordre à bout de nerfs et traversé par une vague de suicides, 47 depuis le début de l'année. Elle profite donc de l'occasion pour le faire savoir. Réunion ce soir autour d'un barbecue de la colère dans le Pays Basque. Le G7 où il sera question des feux qui ravagent en ce moment l'Amazonie. C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron, mais ce désastre écologique est aussi depuis 24 heures au centre d'une montée des tensions avec le président brésilien. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
On en est arrivé au point où Emmanuel Macron accuse Jair Bolsonaro de mentir sur ses engagements pour le climat. Il s'oppose donc au traité de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur.
Ah oui, le Brésil devait s'engager sur l'environnement, ça n'a pas était le cas. Macron refuse donc l'accord. Avant cela, passe d'armes inédites entre Bolsonaro et le président français Emmanuel Macron. Tweeté hier soir, notre maison brûle, membre du G7. Rendez-vous dans 2 jours pour parler de cette urgence. Réponse de Jair Bolsonaro, c'est une mentalité colonialiste, accusant Emmanuel Macron de sensationnalisme.
Donc Paris qui dit non au traité avec le Mercosur, décision qui fait réagir sur la scène politique. Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise, salue la prise de conscience du président au micro d'Adrien Beck.
C'est une bonne décision, j'ai envie de dire il était temps. Ça fait longtemps que pour notre part on dénonce ce projet d'accord avec le Mercosur. Honnêtement, je crois qu'il n'y a à peu près que le président de la République en France qui pensait que M. Bolsonaro pouvait être écologiste. Donc c'est bien qu'après cet été, il ait réussi à se rendre compte que ce n'était pas le cas. Maintenant, j'espère que le président de la République fera preuve d'une cohérence. Et la cohérence, ça mérite qu'une même décision soit prise sur les autres accords de libre-échange qui sont en cours. Celui sur le CETA, donc avec le Canada, un accord de libre-échange qui est préparé en ce moment au Parlement européen avec le Japon, qu'on appelle le JEFTA. Mais on demande à ce que la même cohérence soit appliquée sur l'ensemble des accords de libre-échange. Et il y en a beaucoup sur la table.
Et Pauline, pendant que les deux présidents sont à couteau tiré, la plus grande forêt de la planète s'embrase. Les départs de feu ont doublé par rapport à l'an dernier.
Plus de 70 000 depuis janvier et une responsable, la déforestation. Brûler la forêt pour cultiver la terre ou faire de l'élevage, Bolsonaro veut faire de l'Amazonie un terreau fertile pour l'économie. Le défrichement de la plus grande forêt tropicale du monde a augmenté de 50% cette année, ce qui a valu à Jair Bolsonaro le surnom dans son pays de capitaine tronçonneuse.
Les explications de Pauline Jacquot. Je n'ai qu'une question, qui est notre pire ennemi entre Jérôme Powell et le président chinois? Voilà un tweet de Donald Trump posté il y a 2 heures qui ne devrait pas faire plaisir au premier cité, le patron de la Fed, la banque centrale américaine, qui prononçait justement un discours très attendu par le monde de la finance aujourd'hui. Xavier Yvon, pourquoi le président américain s'est-il autant enflammé?
Eh bien parce que le patron de la Fed, que Donald Trump a lui-même nommé, a eu le malheur de ne pas lui donner ce qu'il voulait, la baisse immédiate des taux d'intérêt américains. Le président les trouve trop élevés, à cause de le dollar est trop fort et ça handicape les États-Unis dans leur guerre commerciale. Et justement, autre reproche qui confine au crime de lèse-majesté, Jérôme Powell a critiqué cette guerre commerciale mondiale déclenchée par Donald Trump. Ça joue un rôle, a-t-il dit, dans le ralentissement mondial, la faiblesse du secteur manufacturier et des investissements aux États-Unis. Nous n'avons pas le mode d'emploi pour remédier à ces incertitudes commerciales. D'ailleurs, comme pour lui donner raison, Donald Trump s'est aussi déchaîné aujourd'hui contre la Chine qui vient d'annoncer des nouveaux tarifs douaniers sur les produits américains. Le président, sur Twitter, ordonne aux entreprises américaines d'arrêter de produire en Chine. Alors, il n'a pas ce pouvoir. Il promet des représailles dans la journée avant de s'envoler ce soir pour la France et le G7.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 2 semaines après le suicide de Jeffrey Epstein dans sa prison de New York, une enquête ouverte en France pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs. La justice qui cherche à savoir si le riche financier a pu commettre des crimes sexuels sur notre sol ou faire des victimes françaises à l'étranger, le tout avec d'éventuels complices. Le parquet va pouvoir vérifier des éléments qui lui ont été transmis ces derniers jours. C'était le déluge au petit matin en Haute-Corse, dans la commune de Lille-Rousse. Il est tombé l'équivalent de 4 mois de pluie en une heure. Les pompiers sont intervenus jusqu'en début d'après-midi. Pas de blessés, mais des rues complètement inondées. Écoutez ce gérant d'un bar de plage qui a assisté à toute la scène.
Il y a eu un très très gros orage cette nuit, donc avec énormément de pluie. Donc vous avez énormément de caves, d'établissements, de restaurants, d'établissements et tout, qui ont été envahis par les eaux. Il y a un problème de réseau, les réseaux sont vétustes, donc très très rapidement submergés. C'est vrai qu'effectivement, au niveau des égouts, on se retrouve avec des situations, je dirais, où il y a des nappes d'eau dans toute la ville qui sont relativement très très importantes et des endroits qui deviennent inaccessibles. Je pense que les infrastructures ne sont pas adaptées. Des intempéries de ce type, on en a 2-3 fois par an. Alors oui, il y a eu un impact. Il y a eu un impact au niveau du trafic routier, puisque énormément de rues ont été bloquées, et un impact aussi au niveau économique pour certains établissements, bien entendu.
Un restaurateur de Lille-Rousse avec Amélie Zimmermann. La Corse est encore en vigilance jaune jusqu'à 21h. La fin des vacances va se faire sentir. Demain sur les routes, la France est rouge dans le sens des retours et orange quand même dans le sens des départs. Valérie Darmon, vu les températures en hausse dans le pays, on s'imagine qu'il fera beau et chaud demain aussi sur tous les littoraux.
Grand beau temps absolument partout et des températures qui s'envolent sur l'arc atlantique entre 28 à Lorient et 30 degrés à Lacanau avec une eau entre 18 dans le Finistère sud et 22 sur la côte basque. Attention au choc thermique et l'océan qui est très très calme. Très belle hausse des températures, là aussi c'est un peu le dénominateur commun, entre Brest et Dunkerque et 30 degrés annoncés à Deauville, à Trouville, à Étretat, à Fécamp, à Saint-Valery-en-Caux, 26 degrés à Dieppe, 26 à Boulogne-sur-Mer et 28 à Perros-Guirec, une Manche très calme, entre 17 degrés dans le Cotentin et 20 degrés du côté de la baie de Seine. Très beau temps retrouvé en dépit de quelques passages nuageux entre le Canet et Nice avec 32 degrés sur vos plages et une Méditerranée calme entre 22 en Roussillon et 27 dans les Alpes-Maritimes.
Merci Valérie Darmon.
Merci à vous Thibault Lambert. Dans une dizaine de minutes, Thierry Dagiral, on va parler de la nouvelle grille d'Europe 1.
Oui, coup d'envoi lundi matin. Ils vont me rejoindre à Mathieu Béliard qui fera la matinale, Philippe Vandel qui fera le 9h-11h et Nathalie Lévy qui sera à l'antenne de 18h à 20h. Et puis dans un instant, Johanna, on va parler de la rentrée scolaire. C'est dans 9 jours quand même. Michel Fiss sera avec nous. Il est sociologue et il publie « L'école à la ramasse » aux éditions de l'Archipel.
Restez avec nous, à tout de suite. Europe 1, il est 19h10, votre grand journal du soir se poursuit, Thierry Dagiral. Dans 9 jours, c'est déjà la rentrée scolaire, avec quelques changements cette année, comme les filières qui disparaissent au lycée, remplacées par des spécialités désormais. Comment va l'école? En tout cas, pas bien pour le sociologue spécialiste de l'adolescence Michel Fiz. Il vient de publier « L'école à la ramasse » aux éditions L'Archipel. Il est votre invité, Thierry Dagiral.
Bonsoir Michel Fiz.
Bonsoir.
Le sous-titre de votre livre, c'est « L'éducation nationale en faillite ». On n'est même plus dans la crise selon vous.
Oui, je crois que c'est le mot central, parce que je crois que ce qui différencie une faillite d'une crise, c'est une crise, on en sort à un moment ou un autre. Ouais. C'est un événement passager. Je pense que la faillite, c'est une situation durable.
Durable.
Donc il faut trouver les moyens de s'en sortir.
On va parler de vos remèdes tout à l'heure. D'abord, votre constat, vous dites l'égalité des chances est un leurre, un principe constamment bafoué.
Je pense que notre école n'a jamais été aussi inégalitaire qu'aujourd'hui,
ouais.
Ou pour dire les choses autrement, elle est plus élitiste que jamais. On a un nombre d'échecs scolaires qui demeure très important, hein, auquel il faudrait ajouter d'ailleurs ce qui peut conduire à l'échec, hein, des absentéismes chroniques, pourrait-on dire, ou passagers, voilà, qui dessinent un monde scolaire de fait réservé à une élite qui continue de gagner comme elle l'a toujours fait.
Mais néanmoins, Michel Fils, quand le ministre de l'Éducation met l'accent notamment sur la maternelle, sur le CE1, ça ne va pas à terme changer les choses ?
Ah, j'ai envie de dire, peut-être pour employer cette expression, ouais. Que plus ça réforme et moins ça change.
Trop de réformes.
On a l'impression,
aussi,
non,
hein.
Qu'on réforme pour en fait ne rien changer au fond. Parce que ce dont l'école a besoin, c'est d'une véritable refondation, selon l'expression d'un ancien ministre, Vincent Peillon, qui n'a pas refondé. Parce que refonder, c'est tout nettoyer du sol au plafond.
Mais j'ai l'impression que cette refondation, dans l'école, on en parle depuis 20 ans, 30 ans. Il faut refonder l'école, on l'entend à chaque nouveau ministre d'éducation.
Oui, mais je crois qu'on s'est contenté, réforme après réforme, ouais. D'être dans une sorte de réponse, j'allais dire, mécano. Hein, donc, on choisit tel ministre de commencer par le primaire, ce que fait M. Ouais. Blanquer aujourd'hui. D'autres ont plutôt choisi le collège, d'autres le lycée. Voilà, donc ça donne une impression, effectivement, de juxtaposition qui ne change pas cette école que je continue, moi, d'appeler l'école Jules Ferry.
Ouais.
En moins bien.
Vous écrivez, on est face à une institution zombie. Ça veut dire que le système scolaire repose sur un ancien modèle, vous venez de lire, qui n'a pas évolué, qui est mort.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est une institution, donc une verticalité, donc une hiérarchie. On a toujours au sommet le chef d'établissement, ensuite les enseignants, et puis tout à fait à la base, les élèves qui doivent écouter les enseignants, comme les enseignants doivent respecter les recommandations des chefs d'établissement et des recteurs d'académie.
Fonctionne plus avec la société actuelle, n'est plus en phase ?
C'est-à-dire que c'est complètement anachronique par rapport à une société qui est démocratique, hein, qui fonctionne sur le principe de l'horizontalité,
ouais.
De l'égalité, de la discussion, de l'échange. Il faudrait, je le dis dans la deuxième partie, il faudrait réinventer de nouvelles relations qui tiennent compte davantage de cette situation démocratique, qui tiennent compte davantage que derrière l'étiquette d'élève ou de prof, il y a des personnes, voilà, avec des attentes particulières, des besoins particuliers, qui ne sont pas les mêmes d'un élève à un autre, hein, d'où le fait ouais. Que je parle d'une éducation sur mesure, donc personnalisée, individualisée. Hein, on est là, face à cette école de masse, hein, à une éducation, et j'allais dire plutôt une instruction de masse, voilà, la même pour tout le monde, partout, à toute époque.
Donc ça veut dire qu'il faut des profs mieux formés et des enseignements mieux adaptés en fonction de la réalité d'une carte géographique, d'un endroit, d'un lieu.
Je pense qu'il faudrait sans doute, je le dis, casser ce ministère de l'Éducation nationale, hein, ce mastodonte,
ouais,
ce mammouth
disait,
comme a pu dire Claude Allègre en d'autres temps,
ouais.
Régionaliser l'enseignement scolaire, avec peut-être un ministère qui serait un ministère arbitre, hein, qui donnerait un certain nombre de grandes directives, qui veillerait à une certaine égalité des principes. Mais pour le reste, il faut inventer
ouais.
Hein, une école véritablement qui soit une école du 21e siècle. Et surtout, il faut se poser la question de fond que je pose au début de ce livre, mais l'école, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école ? Alors, on fait comme si on savait. Alors, on va répondre, ils sont enseignés, on leur apprend des disciplines, ils passent des examens, ils passent le bac, voilà.
Ça veut dire que vous dites, les enseignements ne sont pas adaptés finalement au métier actuel, au futur métier ?
Il faut changer les matières.
On a des matières dont les élèves eux-mêmes affirment qu'elles sont trop abstraites, trop éloignées de leur réalité quotidienne. On sait qu'effectivement, dans un certain nombre de lieux, de pays, on part de l'actualité pour remonter... Prenons un cas de génocide, partir plutôt d'un génocide contemporain pour remonter à l'extermination juive par le nazisme. Voilà, ce qui donne beaucoup plus de sens à des élèves qui sont aujourd'hui immergés dans le concret, dans l'immédiat. Voilà, donc il faut recomposer des programmes, peut-être en sortant du tout disciplinaire. Je pense qu'il faut abandonner l'idée de discipline. Voilà, comme ça, figé.
Mais c'est quoi, ça veut dire une école à la carte, finalement ?
Alors, une école à la carte, alors peut-être une école comme ça existe dans quelques pays, pas beaucoup, mais ça existe quand même, sans salle de classe. On n'est pas condamné à enseigner dans le cadre d'une salle de classe qui reproduit ce schéma vertical dont je parlais tout à l'heure. On peut aussi inventer, c'est un exemple que je cite dans le livre, la classe inversée.
Mais, c'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'on prépare le cours chez soi, avec l'aide des enseignants. Qui
et on vient confronter ce que l'on a retenu.
Voilà, et on revient en classe pour une sorte de correction et d'un échange avec les enseignants. Et les résultats sont positifs, puisque les performances sont améliorées.
Ouais. Vous parlez de la violence aussi, bien évidemment, dans ce livre. La violence à l'école. Pour vous, l'école est devenue un grand ring, vous dites, avec des profs qui ne sont pas assez formés, pas assez adaptés là aussi, qui ne savent pas finalement gérer des classes et des jeunes.
Il y a une étude qui a révélé qu'effectivement, on avait oublié qu'aujourd'hui, gérer une salle de classe, c'était gérer un groupe, c'était connaître des principes de dynamique du groupe. Un enseignant est d'abord un coach, parce qu'il se retrouve dans une situation qui serait quelque part le pouvoir que l'enseignant a toujours, même si effectivement il est très entamé, sans l'ordre. Voilà. Et beaucoup de profs passent leur temps, et beaucoup plus qu'on ne dit, à faire de la discipline. Je ne crois pas qu'il y ait une seule classe en France où il n'y ait pas des moments de chahut, donc nécessitant des rappels à l'ordre.
Jean-Michel Blanquer avait annoncé au printemps dernier des mesures justement pour lutter contre cette violence scolaire. Elles ne vont pas assez loin.
Vous savez, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on empile les plans de réponse à la violence scolaire. Ouais. On a oublié que cette violence commençait par les mots, et donc il fallait peut-être réapprendre à se parler correctement pour éviter quelquefois d'en venir au coup.
Ouais. Michel Fize, on est à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Vous dites quoi au ministre Blanquer et aux profs qui nous écoutent ?
D'abord, je pense qu'il faut toujours avoir en tête le souci de la justice scolaire, donc de la lutte contre les échecs, donc de faire de la discrimination positive encore et encore pour aider ceux qui ont moins et qui peuvent réussir tout autant. Je crois qu'on avait inventé l'excellence, des établissements d'excellence, mais pour les meilleurs. Je crois qu'il faut inventer des internats d'excellence pour les plus faibles, pour qu'ils deviennent excellents à leur tour.
L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite, ça vient de sortir aux éditions L'Archipel. Le constat est violent et dur. Il est signé Michel Fize. Merci à vous.
Merci.
Europe 1. Restez avec nous. Thierry, dans un instant, on va parler de la nouvelle grille d'Europe 1 qui débute lundi avec Mathieu Béliard, Philippe Vandel et Nathalie Lévy. A tout de suite. Europe 1, il est 19h20. C'est lundi que sera lancée la nouvelle grille d'Europe 1 avec des sessions d'information plus longues, du rire avec Anne Roumanoff et Mathieu Noël. On en parle avec vous, Thierry Dagiral.
Et ils sont venus, ils sont tous là, ou presque, ceux que vous entendrez dans le poste sur Europe 1 dès lundi. Ils sont là ce soir, Mathieu Béliard, Philippe Vandel et Nathalie Lévy. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
On va commencer par le matin, 5h-6h, Julien Pierce pour vous informer. Et 6h jusqu'à 9h, ce sera vous, Mathieu Béliard. Des journaux plus longs, Mathieu ?
Beaucoup d'infos, on va densifier l'info, des journaux beaucoup plus longs pour certains qui doublent de volume même. Une part belle au travail de la rédaction pour revoir le récit de l'information avec beaucoup de sons. On a beaucoup travaillé sur les formats, ça va être une très belle matinale d'information.
Une volonté de raconter le monde qui change.
Exactement, avec aussi nos chroniqueurs que vous découvrirez à partir de lundi matin. Et puis nos invités, on veut des acteurs de l'actualité. Évidemment, on veut du discours à la première personne dans cette matinale. On veut que ça se passe le matin sur Europe 1 entre 6h et 9h.
Et on va parler des l'écologie aussi.
Beaucoup, beaucoup. C'est évidemment une question, on est très sensible, nous-mêmes déjà dans cette équipe, sur Europe 1, depuis plusieurs années, à ces problématiques environnementales d'une manière générale. Ensuite, on sait qu'aujourd'hui, elles ont des implications sociales, économiques, sur tout un tas de sujets, et on va décrypter tout cela avec Axel de Tarlé, par exemple, que vous entendiez déjà le matin, mais avec une nouvelle aussi, Fanny Agostini, que vous avez peut-être pu découvrir sur Thalassa il y a quelques temps, et qui sera en direct de sa ferme en Auvergne, où elle s'est installée tous les matins pour une chronique en direct.
Mathieu, il y aura aussi les auditeurs importants.
Ils savent pas planter les choux ici autour de moi.
Surtout pas Vandel.
Il y aura aussi des auditeurs, non, évidemment.
Ça va des gens qui ont des fermes en Auvergne.
Est-ce qu'on aura une caméra chez Fanny?
J'espère qu'elle nous enverra des photos et puis qu'elle passera de temps en temps avec ses produits.
Génial.
Et important, genre le 8h, Sonia Mabrouk, qui suivra donc l'interview politique 8h15.
Exactement. Tous les journaux sont rallongés, mais de 8h à 8h30, il y a une belle demi-heure d'infos, un très grand journal qu'on présentera ensemble avec Sonia, et puis l'invité politique qui de temps en temps pourra durer un peu plus longtemps que prévu s'il y a des appels d'auditeurs, si on a envie de lui poser des questions, de prolonger l'exercice.
Alors on poursuit de 9h à 11h, c'est Philippe Vandel. Philippe, c'est le retour des médias, ouais. Avec les audiences, avec les grandes interviews de ceux qui font l'actu média, bien sûr.
Exactement, il y aura aussi un journal des médias, il y a 2 heures d'antenne, de 9h à 10h, ça sera médias, de 10h à 11h, ça sera culture, avec un journal de la culture, et la culture au sens très très large.
Ça veut dire quoi, qu'on parle des jeux vidéo par exemple aussi?
Les jeux vidéo, c'est la première dépense culturelle mondiale, ouais. Devant le cinéma, un jeu comme Fortnite, un humain sur 30 joue à Fortnite. Et donc, ça fait partie de la culture au même titre que les livres, les expos et ces choses-là. Et il n'y a pas ni de grande ni de petite culture. Évidemment, les médias avec les patrons de chaîne, la presse écrite, parce que ça existe encore, et tous les nouveaux médias, tout ce qui se passe sur Internet.
Les invités, bien évidemment.
Évidemment.
Le service culture au grand complet.
Oui, autour de vous. Quand ils sont là, quand ils sont réveillés, quand ils sont pas à la ferme. Et plein de choses, et ça va vivre. Et il y aura parfois des tables rondes, parfois on va donner des coups de cœur, des prescriptions, et mille choses comme ça. Et aussi, les invités qui parfois eux-mêmes apporteront leurs coups de cœur.
Et sur la partie médias, aussi cette volonté de décrypter ce monde des médias qui change énormément.
Alors moi, je déteste le mot décryptage, je vais vous le dire, mais on va essayer de le raconter, parce que tout n'est pas crypté. Il y a plein de choses qui sont publiques, mais c'est une manière de voir les choses et aussi d'être avec la vraie personne et lui poser la vraie question, et sans langue de bois et sans méchanceté.
Ouais. Alors après vous, ce sera Anne Roumanoff, Raphaël Duchemin pour une grosse session d'information à la mi-journée, Christophe Rondelat bien sûr, une émission santé avec Mélanie Gomez, puis Mathieu Noël de 16h à 18h, et de 18h à 20h, la petite nouvelle, Nathalie Lévy.
Ouais, c'est sympa la petite nouvelle, ça va bien, ça va. Jusqu'ici tout va bien.
Mais oui, moi je ne l'avais jamais vu moi. Le grand journal du soir, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Là aussi,
le
journal plus long.
Le grand journal du soir, un journal très long, effectivement très dense, très riche.
Dès 18h.
Dès 18h, commande Sébastien Krebs, avec de l'invité dans le journal, avec évidemment toute la rédaction mobilisée pour nous proposer la politique, l'information justice-police, avec évidemment le service économie, les sports, l'international. On sera sur tous les domaines, on sera sur toutes les actualités chaudes, on sera en région, on sera là où il faut, quand il faut, pour non pas décrypter, j'aime bien Philippe,
ouais.
mais raconter ouais. l'information aux gens, les emmener avec nous, leur expliquer les choses, être très en proximité, très pragmatique, très concret, raconter l'histoire de la société, en fait, l'histoire de l'actualité qui se joue là, sous leurs yeux chaque jour.
Et avec les grandes voix d'Europe 1 qui seront présentes avec vous. Absolument. Tous les soirs. Hein.
Les grandes voix au rendez-vous tous les soirs, ils seront là, ils seront fidèles au poste, avec évidemment le sel qui va bien, parce qu'ils ont les petites infos, il y a leur personnalité, leurs engagements, leurs contradictions,
leur liberté,
etc.
de parole aussi.
Etc.
Ouais.
Donc tout cela, c'est un rendez-vous.
Revisiter l'actu avec eux, avec vous tous les soirs.
Absolument. Demain, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe demain, Thierry?
Qu'est-ce qui
vous
se passe demain?
Eh ben moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain dans tous les secteurs, santé, innovation, tout, culture, écologie. Et puis attention, demain dans nos régions, en France, notre France, il y a évidemment plein de régions à découvrir, plein de régions, il se passe des choses. Et puis dans le monde, alors on sera évidemment avec nos correspondants étrangers un peu partout pour savoir, avec un temps d'avance, ce qui se passe demain.
Mathieu, vous a laissé la tranche. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont à l'écoute, qui sont prêts à téléphoner au 3921. Il y aura aussi des auditeurs dans votre tranche.
Mais évidemment, ils sont essentiels, non? Ils sont essentiels au succès d'Europe 1, ils sont essentiels à la saison dernière avec vous, Mathieu, à votre succès aussi. Et puis, j'espère, la saison-là, qu'on démarre ensemble, ils seront là, présents, pour tout nous dire, leurs
et
attentes, leurs coups de gueule. Et
ils participeront à ce fameux débat société qu'on fera tous les soirs, que vous ferez tous les soirs à 19h30.
Après le journal de 19h30, ouais. On les invite à participer, à donner leur avis, à poser des questions, à opposer leurs contradictions, à tout nous dire avec franchise. On dit les choses, on se raconte les choses. arrive sans fioriture.
Quand je vous regarde tous les trois, il y a une vraie jeunesse, enfin à part Vandel. Ouais. Il y a une authenticité.
Dis donc, tu t'es vu.
Il y a une soif.
Non, mais le mec, c'est quand même. C'est la cafetière qui dit à la théière, t'as le cul sale.
C'est quoi le point commun entre vous trois?
C'est l'envie de transmettre.
Blague à part, c'est l'envie. Et moi, je peux le dire, parce que moi, j'étais fan de Mathieu, que je connaissais pas, que j'ai découvert sur Europe 1, et j'étais fan de l'émission de Nathalie. Donc, moi, c'est la passion qu'ils ont et qui manifeste. Je ne veux pas parler pour moi, je parle pour eux. Je vais faire le compliment à leur place. C'est la passion qu'ils ont en commun.
Eh bien, écoutez, on a hâte de vous écouter.
C'est sympa, on ne peut pas ne pas dire un truc. Non, je suis désolée.
Non, allez-y, Nathalie, allez-y,
non,
allez-y.
Moi, j'ai écouté Philippe, j'étais au biberon. Non, pardon, Philippe.
C'est bien ce que je disais. Ouais.
Non, Philippe, évidemment.
Tu sais que l'émission passait à minuit et que c'était interdit. Je te précise.
Philippe,
si j'étais
peu,
toi,
mais
je ne dirais rien.
J'adore Philippe, j'ai adoré l'entendre sur tous les domaines. Et ce qu'on aime, je crois, tous, c'est raconter, non? Raconter, ouais, être concret, être proche des gens.
Ouais. Allez, arrêtez les compliments. Moi, je vous casse avec quoi on... Pour moi, c'est l'heure de la traite. On a... j'ai une ferme dans la bosse et il faut que j'y aille.
On a hâte de vous écouter, en tout cas dès lundi. Mathieu, vous reposez-vous bien ce week-end?
Je vais me coucher de ce pas.
Le réveil est à quelle heure lundi?
Il sera vers minuit et demi, une heure.
Ouais. Wow. Ouais. Mathieu Béliard, 6h, 9h. Ouais. Philippe Vandel, 9h-11h. Nathalie Lévy, 18h, 20h. C'est reparti sur Europe 1. Ouais. Merci à vous trois.
Merci minuit et demi,
l'heure beaucoup. À laquelle Dagiral arrive en boîte. Bonne soirée.
Europe 1. À suivre dans un instant, Thierry Dagiral.
Allez, un peu de musique, Johanna. La musique de votre été dernier rencontre ce soir avec les stars de ces festivals d'été. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Les confidences de Clara Luciani, dans un instant.
Il est 19h29. Tout l'été, Europe 1 vous a emmené sur la route des festivals à la rencontre des artistes qui parcourent la France. Thierry Dagiral, votre dernière rencontre ce soir avec Clara Luciani.
Bonsoir Clara Luciani.
Bonsoir.
Vous faites partie des artistes les plus programmés de l'été. Vous serez en septembre pour deux concerts à l'Olympia à guichet fermé. Comment vous décrire une frange?
Oui.
Une voix qu'on retient. Et puis ce tube, bien sûr. La Grenade. 9 festivals en juillet, dont les Vieilles Charrues avec Europe 1. Vous serez demain au festival Les Solidarités à Namur en Belgique. Clara, un festival, c'est différent d'un concert traditionnel?
C'est très différent. La première raison, c'est que les gens ne viennent pas du tout, enfin parfois si, hein, mais souvent ils viennent pas pour nous, ils viennent pour les grosses têtes d'affiches. Ouais. Et du coup, parfois ils nous découvrent totalement. Et ça me rappelle un petit peu en fait mes premiers exercices de première partie en fin de compte, ouais, où j'avais comme ça un temps réduit pour séduire un public qui venait pas du tout pour moi.
Vous êtes oui, mais en du haut coup,
dans les... oui, mais pas toujours dans les festivals, vraiment, il y a plein de gens qui me connaissent pas et j'aime bien cet exercice là, quoi. C'est vraiment un truc comme ça de conquérant, j'aime bien.
Vous enchaînez les concerts, pourtant je crois savoir que lors de vos premières scène, lorsque vous étiez l'une des voix du groupe La Femme, c'était pas aussi simple d'affronter le public. Il y avait
non,
une trouille.
Ça allait toujours pas.
Ah, oui,
et en même temps, je crois que j'ai pas envie non plus que ça devienne une facilité ou quelque chose que j'arriverais à prendre.
Il y avait du stress, il y avait.
Il y a un trac énorme.
Ah,
il
ouais
y a un trac énorme que j'apprends à dompter et je crois que d'avoir gagné le prix de la révélation scène aux Victoires de la musique m'a un petit peu aidé, mais, ouais, mais je continue à, ouais, à avoir du mal avec cet exercice.
On parle de votre
j'adore,
voix.
Hein, mais...
On parle de votre voix. Grave,
oui,
qui vous a gêné dans votre jeunesse.
Ouais, un peu complexé. Ouais.
C'est vrai, vraiment.
Ouais. Bah oui. Et puis, les enfants sont tellement difficiles, ouais, entre eux, sévères. Moi, j'étais déjà très grande. À 11 ans, je mesurais 1m76. Donc, ouais, avoir une voix comme ça, en plus, un peu différente.
Et maintenant, ouais, c'est un atout. Et puis, ça fait vraiment votre.
Je sais pas si c'est un atout, mais moi, j'ai décidé en tout cas de retourner un petit peu la situation et de prendre toutes les choses qui me complexaient comme, ouais, en tout cas, des singularités.
Je vous présente Diane Chenouda. C'est elle qui suit
bonjour
la culture
bonjour
sur Europe 1.
Bonjour,
vous connaissez parfaitement.
Thierry, bonjour à tous.
Et elle vous résume, elle nous résume votre année.
J'ai déjà rencontré Clara aux Victoires. Alors, ça fait 2 ans, en effet, que vous tournez, voire même plus, Clara Luciani, hein, que vous sillonnez la France avec votre premier album au nom prémonitoire, évidemment, de Sainte Victoire, puisque vous avez décroché cette année la victoire de la révélation scène, hein, vous en parliez. Vous avez percé et continué à cartonner avec votre tube, La Grenade, qu'on vient d'entendre, chanson féministe. Vous chantez vos tourments, vos interrogations de femmes, sur ce que c'est au fond d'être une femme, quand on vous reprochait de ne pas l'être assez, hein, c'est la chanson drôle d'époque que j'aime beaucoup moi, et puis que vous chantez seule à la basse cette chanson avec cette voix grave dont on parle beaucoup, hein, pour vous pure, une voix pure, puissante, à elle seule tout un univers, cette voix que vous n'aimiez pas trop quand vous étiez enfant, mais qui est un atout aujourd'hui grâce à la musique. Cette voix de velours qui vous a ouvert les portes du groupe La Femme, puis tout bascule après un chagrin d'amour. Vous écrivez 10 chansons en 4 jours. Ça donne cet album vibrant, aux accents parfois mélancoliques. On pense parfois à Françoise Hardy, que vous admirez depuis toujours. La musique vous a sauvé, dites-vous. Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous êtes devenu accro à la scène. Vous qui étiez une grande timide au départ. Alors justement, c'est vrai, vous ne pouvez plus vous en passer de la scène, Clara ?
Non. Impossible.
C'est vrai ?
Parfois, on passe comme ça une semaine sans concert et je suis très malheureuse.
C'est vrai.
Ah oui. Ouais, c'est complètement addictif. Ah ouais.
Il y a besoin du public maintenant.
Ouais.
Parce que qu'est-ce qui se passe pour vous sur scène ?
C'est une communion et puis c'est tout à coup la sensation à la fois d'être comprise et aimée. C'est un peu ce que recherchent tous les êtres humains, je crois. Donc une fois qu'on a goûté à ça, quand on rentre chez soi, on se dit « Mais oh, vous êtes où les gars ? Revenez !»
Ouais. Je voudrais qu'on parle de deux personnages importants. Le premier, c'est un artiste, Benjamin Biolay.
Oui.
Qui vous a pris sous son aile.
En première partie, ouais, absolument.
Au tout début, vous lui devez beaucoup.
Je lui dois beaucoup, oui, parce que vraiment, l'exercice de la première partie, moi, c'est quelque chose que je conseille à tous les jeunes artistes. C'est
formateur.
C'est extrêmement formateur. Moi, j'ai vraiment l'impression comme ça, à travers cette expérience-là, plus l'expérience de la femme, d'avoir vraiment eu un parcours initiatique idéal. J'aurais jamais réussi à me lancer toute seule sans avoir eu ces expériences.
Ouais. Et il y a un autre personnage important, c'est votre papa.
Oui.
La
qui
basse.
Joue à la basse, oui. Hein, c'est ça.
Ouais. C'est lui, ouais. Ouais. Comment ça se passait, petite ?
Non, mais mon père ouais, a toujours joué de la basse et puis de la guitare. Et du coup, en fait, avec ma sœur, on a toujours chanté. Quoi. Moi, quand on me demande mais à quel moment est-ce que vous avez commencé à chanter, j'ai l'impression
ça fait partie vraiment
que j'ai commencé à parler. Quoi. Ouais. On était en permanence en train de faire de la musique.
Et ça a changé quelque chose quand même pour vous, cette victoire de la révélation scène quand même. Ça vous a donné davantage confiance en vous ?
Ça donne un peu de courage, ouais. Ça donne encore. Enfin voilà, le chemin est encore un petit peu long pour moi.
malgré le succès.
Ouais, je sais pas. Moi, c'est un mot que j'ai du mal à employer, succès, surtout.
On peut le dire maintenant, ça y est. C'est un carton.
Je sais pas. Ouais. mais en tout cas, je sais que j'ai encore du travail à faire, mais le public m'aide beaucoup aussi, vraiment.
Clara Luciani, vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser. Mais d'abord, on vous écoute. Clara Luciani sur Europe 1.
Sous mon sang là, colonnade, sous mon sang là, regarde.
Luciani sur Europe 1. La suite de l'interview dans un instant, Thierry Dagiral.
Oui, ne bougez pas.
On revient.
Et sur la route des festivals, à la rencontre des artistes incontournables de l'été, on retrouve Thierry Dagiral avec Clara Luciani.
Clara Luciani avec nous, artiste de l'été que vous avez vu dans de nombreux festivals, qui sera demain au Festival des Solidarités à Namur en Belgique et puis à l'Olympia en septembre à guichet complet, hein. C'est fini.
Ouais, ça c'est merveilleux, ça. C'est fou quoi. Après, moi j'ai quand même joué 10 fois à l'Olympia en première partie.
Première partie, ouais.
Donc c'est quand même dingue d'arriver
là, d'avoir
à avoir
votre
nom sur la fiche.
En immense.
Ouais. Et vous avez déjà joué à l'Olympia en...
Oui, on en a fait un premier en avril dernier, le 12 avril.
Alors, c'était comment?
Indescriptible. En plus, j'avais la chance d'avoir ma sœur en première partie. Ouais. Toute la famille, il y avait un espèce de Luciani bus qui est monté de, Marseille à Paris pour l'occasion et c'était génial.
Qu'est-ce que vous pensez de votre succès? Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'arrête?
Si, bien sûr, évidemment, quand on fait quelque chose d'aussi vertigineux, on a toujours peur que ça nous quitte. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que j'ai du mal à employer le mot succès ou que j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. C'est parce que c'est je suis très lucide, en fait. Je suis très lucide quant au fait que voilà, c'est des carrières qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prédire, et je garde toujours ça en tête, quoi. Donc je suis très terre à terre, je crois.
Justement, vous commencez à réfléchir à l'après, au deuxième album, à l'écrire.
Oui.
Êtes dessus déjà?
Tout à fait.
Il sortira quand?
J'espère en 2020. Moi, je suis un peu hyperactive, j'ai envie que les choses aillent vite, et puis j'ai l'impression d'avoir écrit le début presque d'un roman et que les gens attendent la suite, et que moi aussi.
Exactement. Voilà. Votre premier album, c'est votre histoire.
Oui.
C'est très personnel. Ça restera très personnel, c'est l'histoire...
Oui, moi, je suis incapable de faire autre chose que ça.
Ouais.
Vous avez parlé de quoi, alors?
De moi.
Toujours de vous, d'accord.
Complètement décomplexé. Écoutez, il y a des gens qui font des selfies. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire parce que je trouve ça trop auto-centré. Par contre, j'ai aucun problème à écrire des chansons sur moi.
Je crois qu'on parle toujours de soi, quand même.
Oui, c'est vrai que c'est un truc de l'écriture. Même quand on se cache derrière des personnages ou des fictions, on dit beaucoup de soi.
Vous rentrez quand au studio? C'est prévu tout
à
ça?
À la rentrée,
ou...
j'espère. Oui, ouais. Quelques semaines, ouais. J'espère.
Écrire sur son histoire, c'est ce que vous savez faire. C'est la seule chose que vous pouvez faire, finalement.
Je crois, mais je suis complètement en phase avec ça, dans le sens où c'est quelque chose qui a pu un petit peu me complexer, me donner quelques doutes, et puis je me suis rendu compte que finalement, moi, les récits qui me touchaient le plus, c'était les récits autobiographiques, que c'était pas pour rien si j'aimais autant Duras ou Annie Arnaud, ou même en chanson Françoise Hardy qu'on évoquait tout à l'heure.
Ouais.
C'est des femmes qui savent parler d'elles sans filtre, et je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée dans leurs écritures respectives.
Qui vous a inspiré, justement? On a parlé beaucoup de Françoise Hardy, d'ailleurs il y a une ressemblance.
Ça, c'est les cheveux, hein, mais sinon...
Non, mais quelque chose quand même dans la voix, enfin dans le...
Dans l'intonation. Vous avez grandi avec qui dans les oreilles?
Nico, beaucoup.
Dans l'esprit.
Nico du Velvet Underground.
Ouais.
Marianne Faithfull, PJ Harvey, Patti Smith.
Ouais. Ça, c'est...
Barbara.
Des femmes qu'on aime,
ouais,
vraiment.
Parfait.
Ouais.
Votre carrière, vous avez envie de la gérer comment? Quel artiste vous inspire dans la gestion d'une carrière?
Patti Smith, pour le coup.
Ouais.
Patti Smith, parce que je trouve ça formidable à quel point, bon, déjà, elle est restée complètement intemporelle. On l'aime toujours autant. Elle fait toujours d'aussi beaux disques. Elle ne s'est jamais trahie.
Clairement.
Et en plus de ça, elle est très touche-à-tout. Et puis, à chaque fois que je découvre une nouvelle facette d'elle, je l'adore. J'adore ses livres, j'adore ses photos.
Vous l'avez rencontrée?
Non, jamais. Enfin, en plus, c'est terrible parce que je l'ai croisée Gare du Nord il y a trois mois. Et j'étais pétrifiée. J'ai pas du tout osé lui parler. Je l'ai regardée de loin.
C'est bien
comme
que ça reste un mythe aussi.
Ouais, peut-être.
Donc demain, vous serez à Namur, en Belgique, au Festival des Solidarités, en septembre, à l'Olympia. Mais là, c'est complet. Diane Chenouna, merci beaucoup.
Avec
merci
plaisir.
Merci infiniment à vous, Clara. Le meilleur pour vous. Merci.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je
assez de cœur, cette vie que j'habite. Parfois me dépasse, parfois est trop petit. Peur que ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillé le noir à mes yeux. Ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé
Clara Luciani sur Europe 1, son dernier titre nu. Après la musique, un peu de lecture à présent.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre.
Europe 1.
Un jour d'été, un livre.
Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Avec Nicolas Carreau qui vous a fait partager ses coups de cœur tout l'été. Nicolas, un livre, un bon livre encore pour ce week-end. Vous nous parlez de l'un des plus grands écrivains américains.
Raymond Carver, oui. Il est mort il y a une trentaine d'années, en 88. C'est effectivement l'un des plus grands auteurs américains. La plupart des écrivains contemporains s'en réclament. Ils admirent son sens du récit et sa manière de décrire la banalité en format court.
Parce qu'il est surtout connu pour ses nouvelles.
Absolument. C'est le maître de la nouvelle. Les éditions de L'Olivier publient d'ailleurs ce recueil, 9 histoires et un poème. Donc, comme son titre l'indique, on peut y lire 9 nouvelles. En général, les histoires de Carver sont très courtes. Leur particularité, c'est qu'elles nous font entrer dans la vie des gens, souvent un couple ou des copains. La plupart du temps, des gens qui se battent pour survivre, qui tirent le diable par la queue, qui désespèrent, qui ne sont pas, en général, tout au fond du trou, mais qui descendent et qui essayent de remonter à la surface. Et ce qui est très impressionnant avec Carver, c'est que, par son biais, on rentre dans l'intimité des personnages, on arrive au milieu d'une conversation, comme un homme invisible ou un fantôme, si vous voulez, qui entrerait dans le salon des gens, et on en ressort aussi abruptement. Ne vous attendez pas à des fins incroyables, à des twists qui vous font sursauter. Non, avec Carver, on rentre chez les voisins, on écoute, on observe, on rit, on pleure et on s'en va.
Et ce sont des nouvelles connues dans ce recueil, Nicolas ?
Alors, pas toutes. Il y a Les Vitamines du Bonheur, qui est l'une des plus célèbres. Et il y a Une Petite Douceur. Une Petite Douceur, celle-là est terrible. Je vous raconte le début.
Allez-y.
Une dame commande un gâteau par téléphone pour l'anniversaire de son fils. Elle demande au pâtissier d'inscrire le nom de son enfant sur le gâteau en relief. Scotty, normal. Le pâtissier du centre commercial dit « Ok, mais attention, hein, on m'a déjà fait le coup de commander, ne pas venir chercher le gâteau et après je reste avec ça sur les bras. Ok, ok. » Ouais, mais dans la journée, Scotty est victime d'un accident de voiture et tombe dans le coma. Vous pensez bien que ses parents ont autre chose à faire que d'appeler le pâtissier. Mais lui, ne voyant arriver personne, il est furieux. Il ignore évidemment ce qui s'est passé et il ne compte pas se laisser avoir. Alors il appelle chez les parents de Scotty et il appelle encore. Il les harcèle. Alors je vous ai dit que les fins de nouvelles n'étaient jamais spectaculaires chez Carver. Là, c'est un peu une exception qui confirme la règle. La fin est dingue et merveilleuse. Si vous n'en lisez qu'une, lisez celle-ci, Une Petite Douceur.
Et c'est donc dans le recueil 9 histoires et un poème aux éditions de L'Olivier, 10,70 €. Merci infiniment Nicolas Carreau pour tous ces bons conseils de lecture. Merci.
Europe 1. Europe 1, il est 19h48. Dans un instant, le héros du jour.
Oui, après la chanson, la lecture, place au sport. C'est notre dernier rendez-vous signé Jean-Claude Perrin. Et le héros ce soir, c'est Renaud Lavillenie. À tout de suite.
Héros d'un jour.
Incroyable performance.
Jean-Claude Perrin.
Nous sommes le 15 août 2016. C'est la grande finale des Jeux Olympiques, celle du saut à la perche. À Rio, nous sommes en début de soirée, il est 1h35 à Paris. Un orage se prépare dans le ciel et même dans les tribunes. Nous sentons que le concours ne sera pas celui prévu. Les conditions météo sont difficiles. Un sol glissant, de la pluie. Le concours a été arrêté pendant une heure. Il a fallu changer les poteaux.
Il n'y a pas de raison que ça monte pas haut quand on voit les résultats des dernières saisons et qu'on voit qu'a priori il y a quand même du monde qui est en forme. La médaille d'or, on ne sait pas combien il va falloir en faire, mais après bah, c'est en route pour l'or et tout donner jusqu'au dernier essai. Quoi.
Renaud Lavillenie, le grand favori, ne saute pas la première barre à 5,50. Il se décide à attaquer à 5,75. Rien ne semble pouvoir le perturber. Ni les conditions météo, ni la meute des adversaires, ni le public acquis à la cause de son adversaire, un de ses adversaires directs, le Brésilien Da Silva.
Thiago Braz Da Silva, entraîné par le mentor de Sergueï Bubka, a poussé dans ses retranchements le champion olympique de Londres.
J'ai tout donné sur la piste, j'ai essayé de faire le meilleur concours possible. Je pense que j'étais pas loin de le réaliser.
Avec un départ d'une grande régularité et d'une grande efficacité, en 4 barres, toutes passées au premier essai, il s'est installé comme l'immense favori de cette finale. Et avec 5,98 au premier essai, il bat l'ancien record olympique. À ce moment précis, il donne l'impression d'avoir assommé le concours. Mais la perche est bien ce sport aux multiples rebondissements. Il se retrouve avec le Brésilien Da Silva pour tenter 6,03 m. Dans un stade où la tension est terrible, où le Brésilien, survolté par le public, plus connaisseur des matchs de football que des compétitions d'athlétisme, qui crie, se redresse, appuie et siffle le français, le match est commencé.
À 6,03 m, il passe au deuxième essai, le jeune Brésilien.
Je suis tombé face à un Brésilien qui était vraiment très fort, qui a sorti les sauts au bon moment, d'une manière déconcertante et qui a mis tout le monde d'accord.
Le Brésilien s'envole et à la surprise générale, passe 6,03 m, améliorant son record personnel de 10 cm. Le concours tourne au drame et la victoire change de camp après le deuxième essai manqué de notre champion. La pression est terrible. Nous sommes tous immobiles, glacés dans la tribune. Il tente une dernière fois 6,08 pour finalement abandonner son titre. C'est la défaite. Elle n'était pas prévue. Thiago Silva est un très beau champion qui réalise un exploit monumental pour accrocher l'or et le podium.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
Renaud Lavinelli se voyait déjà sur la plus haute marche du podium et il est bien déçu d'être sifflé à ce moment précis.
Je suis quand même super content parce que c'est une médaille, c'est un concours, j'ai tout donné, j'ai rien à regretter. Quand t'as 40 000 personnes qui sont en train de te siffler alors que t'es en train de tenter ta meilleure performance, et enfin, je,
comprends et c'est complètement normal que tout le monde soit pour Thiago, enfin du moins ici, mais de là à me siffler, voilà, c'est une ambiance de foot qui est malheureusement on voit trop souvent et là c'est la première fois qu'on voit ça en athlé quoi. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça c'est quand Jesse Owens a couru en 1936 quoi. Je veux dire c'est juste incroyable, donc voilà c'est... Ça fait chier d'avoir un public de merde comme ça sur des JO parce qu'à côté, le côté, enfin, la compétition était, était juste énorme. Quoi.
À l'annonce de son nom, une bronca descend des tribunes. Les sifflets du public brésilien lui sont directement adressés en réponse à ses critiques sur l'attitude des spectateurs la veille à la fin du concours de perche. Les Brésiliens n'ont pas apprécié et lui font savoir directement. Renaud Lavillenie fait front, mais il s'effondre en larmes à la sortie du podium.
Je pensais au pire des scénarios qui pouvaient être comme ça, mais pas aussi intense, mais je me dis peut-être je peux me retrouver à me refaire siffler. J'ai pas pu laisser échapper quelques larmes, mais enfin, c'est trop, et là c'est pour moi c'était un peu trop loin, mais je fais avec et j'en reviendrai plus fort.
Voilà la belle série d'été des héros du sport. C'était signé Jean-Claude Perrin et superbement mise en onde par Marc Fréjean. Ainsi s'achève votre grand journal du soir. Merci à Cédric Lassenet et Capucine Patouillet qui m'ont aidé à préparer votre grand journal du soir. Merci à Cyril Pascal qui l'a réalisé. À Pierre-Louis qui vous a accueilli au 39-21. Merci à vous Johanna.
Merci beaucoup Thierry Dagiral.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Belle soirée à tous. Les titres dans deux minutes.